On ne va pas se mentir, avec Baya Carla et sa bande, tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous et bienvenue dans On ne va pas se mentir. Très chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver cette semaine comme chaque samedi de 15h30 à 17h. Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances. Au programme, Mathilde Panot appelle à la désobéissance civile en cas d'accession du RN au pouvoir. Bali Bagayoko visé par une enquête pour détournement de fonds publics. Et enfin, les retraités aisés doivent-ils être mis à contribution? Johan Power, merci d'être avec nous. Vous êtes président du collectif Eros.
C'est bien ça.
Merci, vous êtes heureux d'être là?
Ah bah très heureux, j'ai passé de très très bonnes vacances.
Vous avez fait quoi?
J'étais au Portugal, dans ma petite maison dans le nord du Portugal.
Parler dans le micro.
Et oui, pardon. Et voilà, donc vraiment j'ai passé de trop bonnes vacances et je suis requinqué.
Vous avez une maison au Portugal?
Une maison portugaise, ouais, c'est une maison familiale qu'on a gardée suite à la mort de mes grands-parents, on a gardé, parce que ma mère, elle a 8 frères et sœurs.
J'espère que vous avez payé beaucoup de frais d'héritage, parce que sinon ça va faire grincer les dents de certains,
oui.
De certaines surtout.
Et c'est le sujet, justement, de ce soir, donc oui. Mais non, j'ai passé de très bonnes vacances.
Merci. Julien Abbas, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien responsable des Jeunes Républicains dans les Yvelines.
Absolument, bonjour Baya Carla, merci de me recevoir. Pour ma part, je ne suis pas encore allé en vacances, donc peut-être que j'attendrai la rentrée
pour
prendre
la France qui travaille.
Semaine. Exactement.
La France qui ne travaille pas. Armand, comment allez-vous?
Eh ben, superbe. Je suis très heureux d'être là, très heureux d'être avec Julien d'ailleurs aussi, que j'ai peu l'occasion de voir, et à chaque fois que je le vois, c'est toujours un plaisir. Et je suis bien évidemment ravi de tous vous voir ici, vous que je vois presque tous les jours.
Moi,
et vous, comment ça va, Baya?
Moi, je suis heureux de vous voir, Armand, parce que heureuse, pardon.
Ah, ça y est.
La transition est faite. Parce que en fait, vous connaissez tout Paris. Vous êtes ce genre de personne où en fait.
Je sens le truc.
Vous... Ouais. Non, mais c'est vrai, vous connaissez tout Paris. À chaque fois que je parle à quelqu'un, on me dit ah mais Armand. Je sais pas si c'est flatteur ou si.
J'espère qu'ils me connaissent aussi en bien. Je commence à m'inquiéter.
Alex, merci d'être avec nous.
Ben, merci à vous, ça va aussi. Content d'être là. J'étais déjà content d'être de retour la semaine dernière. Toujours content d'être là. Je vois que j'ai un comparse des Yvelines, donc ça fait plaisir d'avoir un voisin.
Si je me dis comme ça, les Yvelines.
Je vois que vous n'avez pas été en vacances, donc vous ne travaillez pas au Sénat, mais c'est ok, c'est une bonne chose.
Je ne commencerai pas cette blague.
On va passer tout de suite au tour de table. À partir de combien d'euros est-on considéré comme riche? Question qui revient chaque année et qui fâche à chaque fois. À partir de quel salaire est-on riche en France? L'Observatoire des inégalités vient de trancher et le chiffre va sans doute surprendre pas mal d'auditeurs. Le seuil de richesse est fixé à 4 293 euros net par mois pour une personne seule, soit le double du niveau de vie médian. Le salaire médian net en France tourne autour de 2 190 euros par mois pour un temps plein. Pour entrer dans le 1% le plus riche, il faut dépasser 7 500 euros net mensuels. Le 0,1% du sommet dépasse 20 000 euros. Côté patrimoine, le seuil de richesse est fixé à 820 400 euros, ce qui concerne 11% des ménages français. Un sondage IFOP 2026 montre que seuls 6% des Français se sentent riches, alors que 12% dépassent objectivement le seuil. Est-ce que ce chiffre vous paraît juste ou complètement déconnecté du ressenti des gens sur le terrain, Julien?
Écoutez, ce chiffre, comme souvent, n'est qu'un chiffre. Ça dépend beaucoup de plusieurs facteurs. Ça dépend de là où on habite, ça dépend de plein de choses, effectivement, notamment sur le prix du logement. Typiquement, il suffit d'avoir investi dans un domicile, dans un certain endroit, il y a des années, puis avec l'envolée des prix, on se retrouve tout d'un coup parmi, soi-disant, les riches, alors que pas du tout. Après, effectivement, la politique qui est lancée par la France Insoumise est totalement ridicule. Comme je disais, 3000 euros, quand on touche 3000 euros, imaginons, à Paris ou 3000 euros à Toulouse dans ma ville d'origine, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. À Toulouse, on peut vivre très convenablement. À Paris, on vit bien, mais on est loin d'être riche avec 3000 euros.
Mais surtout que j'ai l'impression que certains politiques te parlent de 4000 euros comme si c'était de l'argent de poche. Comme si on avait 4000 euros à claquer dans des vêtements, dans des restaurants. Alors qu'en fait, vous retirez toutes les taxes, vous retirez l'essence qui maintenant coûte une fortune, on n'en parle même plus.
On en a
beaucoup parlé pendant la guerre en Ukraine. Maintenant, ça sert un peu.
Le Détroit d'Hormuz maintenant.
Maintenant, le Détroit d'Hormuz, c'est vrai, il faut que je me mette à la page. Mais on en a beaucoup parlé pendant ces événements, maintenant, on n'en parle plus trop. Mais même quand on regarde, moi, la dernière fois, je suis allé faire les courses, je regardais le prix de la viande. C'est-à-dire qu'avant, quand on consommait de la viande, c'était classique. C'est-à-dire qu'il y avait le poulet du dimanche.
C'est devenu un luxe.
On mangeait, on pouvait dîner ou déjeuner de la viande, du poisson régulièrement. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. C'est devenu très compliqué, Alex.
Bah, je suis d'accord avec vous, surtout. Alors, pour rappeler à nos auditeurs, si on fait ce tour de table aujourd'hui, c'est suite à une nouvelle proposition du coup de la France Insoumise de taxation de ce qu'ils appellent les riches. Je sais pas quel niveau de vie ils ont, je sais pas dans quelle France ils vivent, mais comme vous dites, tout coûte plus cher. Et d'ailleurs, vous l'avez aussi bien rappelé en préambule de ce sujet, c'est une question qui revient tous les ans. Je sais pas pourquoi tous les ans on a ce débat, et j'ai l'impression que tous les ans le chiffre n'augmente pas, on reste toujours autour des 4000 euros, et pourtant la vie augmente tous les ans un peu plus. Donc je sais pas quelle est la définition de riche pour qu'il puisse se dire ça. Enfin, vous l'avez cité, c'est quand on vit avec le double du salaire médian, mais avec 4000 euros on est tout sauf riche. Je suis désolé, on ne vit même pas vraiment très confortablement.
Moi j'ai l'impression que ces chiffres sont faits pour rassurer le peuple français de leur pauvreté, en fait. J'ai l'impression qu'on dit aux gens, non mais attendez, voilà, vous êtes de classe moyenne, ne gagnez pas plus d'argent, hein. Enfin, je veux dire, c'est très bien, contentez-vous de ce que vous avez. Mais 4000 euros, ce serait merveilleux si tout était pas cher et si on pouvait vivre décemment.
Même 4000 euros en 2010.
Même 1500 euros. 1500 euros, il y a peut-être 50 ou 60 ans, bah, ça allait. Maintenant, c'est catastrophique, Johan.
Non, pour moi, je pense, pour vraiment se considérer être riche, c'est 10 000 euros par mois. Je pense qu'avec 10 000 euros, t'as pas besoin de regarder ton solde pour faire des achats. Tu parlais de la viande, mais c'est vrai que le coût de la vie fait que, moi je sais qu'un plein de courses, t'en as pour presque 300 balles un plein de courses, sans compter la RATP, parce que moi je sais, j'ai une très grande expérience avec la RATP, c'est presque 100 balles le pass Navigo pour un service de merde. Il y a aussi, non mais on rigole, mais c'est clairement vrai, hein. Tout le mois d'août j'ai galéré avec la RATP parce qu'il n'y avait plus de RER, il y a des travaux partout, c'est un bordel, et on doit payer 100 balles, limite la carte Navigo. Enfin oui, le coût de la vie fait que, et Julien a parfaitement raison de dire que oui, il y a des endroits comme à Toulouse ou dans les campagnes où forcément le train de vie n'est pas pareil qu'à Paris. À Paris, tout est cher, donc forcément 4300 euros, ce n'est pas suffisant pour moi pour être riche. Pour moi, c'est 10 000 euros, je pense qu'à 10 000 euros...
On parle de Paris, mais moi je reçois beaucoup de témoignages, notamment sur les réseaux sociaux, de familles qui habitent dans les campagnes, etc., où il y a un seuil de pauvreté qui est quand même assez élevé, plus beaucoup d'emplois au vu de la désindustrialisation totale de la France. Et en fait, ces gens-là vivent avec très peu de moyens, ils ne reçoivent que peu d'argent de la CAF ou d'autres aides, voilà, s'ils ont des enfants. Mais ce n'est pas qu'une discussion parisienne, Julien.
Si je peux rajouter un élément pour rebondir sur ce qu'a dit Johan, il faut se poser aussi la question de qu'est-ce que c'est qu'être riche au final. Quelle est la définition de la richesse ? Selon moi, la richesse, c'est pas forcément accumuler les besoins, acheter plein de choses, c'est pouvoir, comme vous l'avez dit, aller faire les courses sans forcément regarder les prix, pouvoir offrir des cadeaux à ses enfants à Noël, aux anniversaires, pouvoir partir en vacances. Les Français en sortent et je peux vous dire qu'ils ont calculé à l'euro près leurs dépenses.
S'ils ont eu la chance de pouvoir aller en vacances.
Partir, vous avez raison. Et là, effectivement, c'est là où on voit la différence entre ce qu'on appelle la richesse et la prospérité. La richesse, au final, c'est juste accumuler des besoins, des biens, même pas, dont on n'aurait pas forcément besoin d'ailleurs, alors que l'essence, c'est pas de rechercher la richesse, c'est de rechercher la prospérité du peuple français. Et ce combat contre la richesse, ça n'a aucun sens de la part de la France insoumise.
Armand, avant qu'il décède sur place.
Non, je vous écoute attentivement, je suis plutôt d'accord avec vous tous. Il faut rappeler quand même un chiffre, c'est 15%. Il y a un peu plus de 15% des Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, que vous avez rappelé, Baya, donc c'est-à-dire 1300 euros. Eux, lorsqu'on leur dit 4300 euros, je peux concevoir qu'ils se disent « Ah, c'est être riche » par rapport effectivement à leur situation actuelle. Cependant, il faut être réaliste, et cette proposition de Manon Aubry, cette déclaration de Manon Aubry est totalement hypocrite, je pense qu'elle est juste hypocrite, c'est même pas une erreur et c'est pas de la polémique inutile, c'est totalement hypocrite parce qu'elle-même fait partie de ceux qui gagnent plus que ce montant, et j'aimerais rappeler que Jean-Luc Mélenchon est multimillionnaire également, donc je pense que c'est plus qu'hypocrite de sa part. Moi, je suis pas d'accord forcément avec Julien par contre sur ce qu'est être riche. Pour moi, être riche, je vais vous donner une définition très très simple. Pour moi, c'est se comporter comme lorsqu'on est en vacances. C'est-à-dire ne pas faire attention
au prix. Oui, c'est vrai, vous me l'aviez déjà dit, ça. C'est vrai,
être riche,
je suis d'accord avec vous. De pas regarder
d'être
les prix, en fait.
Constamment, exactement, c'est d'aller au restaurant, ne pas regarder l'addition.
De profiter de la vie.
C'est un peu ce que je dis. C'est effectivement ne pas regarder forcément, de vérifier son compte dès qu'on fait une dépense. C'est voilà, ne pas, mais sans tomber dans l'excès, sans tomber dans les achats superficiels, mais juste pouvoir se faire plaisir sans forcément regarder à l'euro près.
C'est être libre. Voilà, être riche, c'est pour moi avant tout être libre.
Exactement.
Moi, il y a juste un.
Donc là,
j'arrive.
Toujours, de toute façon.
Moi, il y a un truc qui me dérange, c'est déjà moi en tout cas je Je pense à mes grands-parents qui n'étaient pas riches, mais qui ont une vie merveilleuse, qui allaient en vacances, qui se nourrissaient très bien. Enfin, moi, je regarde les plats que ma maman avait, voilà, au déjeuner, au petit déjeuner, etc. C'était, ils avaient des repas complets. Il n'y avait pas de question d'aller faire. Ma grand-mère allait faire les courses tous les matins au marché. Enfin, voilà, il n'y avait aucun souci. Et c'était une classe moyenne ouvrière. Voilà, ils roulaient pas sur l'or. Et ils ne s'étaient pas dit. Enfin, pour eux, riche, c'était un concept. Voilà, ils ne les croisaient même pas. Il n'y avait pas besoin d'être riche pour se nourrir.
Je vous rejoins d'accord.
Attendez, Johan, parce que Johan, je sais qu'il veut.
Non, j'avais une question justement. Vous, à partir de combien vous êtes riche, en gros?
Dans mon cas personnel.
Ouais.
Moi, déjà, j'estime. Il y a mon cas personnel et il y a le jour où j'aurai des enfants, ça sera deux choses différentes. Parce que rien quand je vois les catastrophes de nos services publics, les écoles, et les hôpitaux.
On a même pas précisé les enfants.
Ça coûte beaucoup d'argent.
Les crèches,
on veut bien les nourrir, etc. Mais moi, de mon point de vue, voilà. Parisienne, pour vraiment bien vivre, et attention, je ne les gagne pas, je pense qu'il me faudrait 7 000, 8 000 euros.
Donc on est aux alentours de 10 000.
Selon moi, à ce montant-là, on est aisé, à la rigueur, très aisé.
Attendez, les amis, pour louer un appartement à Paris, il faut gagner le triple du loyer.
Et pour acheter un appartement
à Paris, qui gagne à Paris le triple du loyer?
Et bah, prenons quelqu'un qui a effectivement qui gagne 10 000 euros par mois. Le prix du mètre carré à Paris, voilà, on va dire en bon arrondissement, on est déjà à plus de 6 000 euros le mètre carré.
Ah ouais, vous êtes gentil.
Plus de 6 500, pardon.
Beaucoup plus.
À peu près à 6 500, on va dire. Allez, on va partir sur 6 500. Vous avez un crédit à payer, vous l'avez rappelé, vous avez des enfants, vous êtes à Paris, donc vous payez le stationnement tous les jours.
Enfin, non, mais les parents
Paris est un gouffre financier comme toutes les grandes métropoles, c'est un fait. Et effectivement, gagner 10 000 euros à Paris, non, ce n'est pas être riche. Moi, je rejoins totalement Axel là-dessus. C'est être aisé, effectivement, c'est avoir un train de vie très confortable. Mais riche, c'est pas ça, être riche.
Alors, je m'appelle toujours Alex et toujours pas Axel, mais je vois que les vacances
après
vous ont fait du bien.
Ouais, je vous aime beaucoup pourtant.
Très chers auditeurs, nous allons passer au coup de gueule et coup de cœur de la semaine.
Les coups de cœur et coups de gueule.
Alors moi, je sais que vous l'aimez bien celui-là.
J'adore.
On commence les coups de gueule avec une petite phrase de Marine Tondelier qui n'est pas passée inaperçue cette semaine, invitée de LCI le 22 août. La patronne des écologistes a dit espérer des actes de désobéissance en cas de victoire du RN à la présidentielle de 2027. Elle a dénoncé une lâcheté et un silence des pantoufles chez ceux qui n'agiraient pas face à cette perspective. Elle a ajouté « Moi, je sais que je sais le faire et je sais... » Qui sait le faire ? Alors, allez traduire ça. Interrogée sur le caractère anti-républicain de ce discours, elle a rétorqué que le RN, lui, n'était pas républicain. Elle cite en modèle le cordon sanitaire médiatique belge de la RTBF, qui exclut le RN de ses antennes. Invitée de BFM TV, le 25 août, la présidente des députés LFI, Mathilde Panot, a défendu Marine Tondelier et assuré que son parti résistera de toutes les manières qu'il faut face à une éventuelle victoire de Marine Le Pen. Sonore.
Si Marine Le Pen gagne, vous respecterez le choix des urnes? Si je vous pose la question, c'est parce que Marine Tondelier, elle dit, en cas de victoire du RN, j'appellerai à la désobéissance.
Ce matin, je m'engage à mettre toute mon énergie, toutes mes forces, à ce que Marine Le Pen ne soit pas élue. Je soutiens les actions de désobéissance, qui sont une forme de la démocratie.
Mais quel genre de désobéissance?
Ah ben, nous résisterons de toutes les manières qu'il faut, évidemment.
Est-ce que vous appellerez à la désobéissance? Vous parlez des ZAD, vous parlez puisque vous avez évoqué aussi
les
écologistes.
Les zones à défendre, je les soutiens, évidemment.
Est-ce que ça veut dire des grèves générales? Est-ce que ça veut dire des choses comme ça?
Bien sûr, je soutiens toujours les grèves.
Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis quand même assez choquée de ce qui se passe. C'est-à-dire que les mêmes qui ont des ancêtres, qui ont fait rouler des têtes par terre, place de la Bastille, se plaignent aujourd'hui et veulent encore faire la révolution. Alors, ils se plaignent d'un système qu'ils ont eux-mêmes voulu, c'est-à-dire la République. Et aujourd'hui, voilà, il y a plus de démocratie en France, j'ai l'impression. Julien, vous en pensez quoi?
Ces déclarations sont très graves, mais pas étonnantes de la part de la France Insoumise et de Marine Tondelier, qui avoue complètement être anti-républicain et anti-démocrate, anti-démocratie, parce que jusqu'à preuve du contraire, si Marine Le Pen est élue présidente de la République, c'est que le peuple a voté pour. Et donc le seul souverain en France, jusqu'à preuve du contraire, c'est le peuple. Si la France Insoumise ne respecte pas le vote du peuple, alors tout paravolo. J'ai envie de dire, il y a une autre partie de l'intervention de Marine Tondelier que je veux relever également. C'est, attendez, je vous le suis noté parce qu'en français c'est un peu compliqué. Je sais qui sait le faire. Je sais qui sait le faire. Ça me laisse songeur sur les fréquentations de Marine Tondelier. Parce que moi, personnellement, je ne connais personne qui, le lendemain d'une élection, imaginons de Jean-Luc Mélenchon, puisse lancer la chienlit dans la rue. Donc, de ce côté-là, ça va poser une question sur ses fréquentations. Et je veux quand même terminer par un petit message pour Marine Tondelier et la rassurer. Cela n'arrivera pas puisque Bruno Retailleau sera président de la République en 2027.
Attention, on va nous faire décompter du temps de parole. Non, mais alors moi ce que je trouve fou dans cette histoire, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c'est quand même indicateur d'une crainte. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que les LFI sont en panique. La maison brûle. Donc là, aujourd'hui, la panique est telle qu'il y a menace. Ils menacent les Français. Ils disent aux Français, si vous allez dans les urnes et vous votez le RN, la France va être à feu et à sang. Les gens vont sortir dans la rue. Non mais attendez, c'est quand même fou, Johan.
Et en fait, on a l'impression d'être en dictature. Clairement, faites ci, faites pas ça. Mais en fait, qui lui paye ses patates? Qui lui paye ses factures à Marine Tondelier? C'est les Français qui votent aussi le RN. C'est ça qu'elle oublie de... Donc là, en fait, elle crache en pleine gueule, excusez-moi du terme, hein, de ces Français qui lui payent ses patates et ses factures. Et puis, hormis ça, moi, j'en ai marre qu'on essaye d'infantiliser les Français. En mode, voilà, vous faites le mauvais choix. Le bon choix, c'est ça. Non, les Français sont grands, les Français sont exaspérés. Ils veulent passer, enfin, à autre chose, à un renouveau. Donc, et moi, je pense que Marine Tondelier, elle se met clairement une balle dans le pied en disant ça, parce qu'elle montre que, justement... Les écolos et les filles, c'est un peu la dictature de la pensée. Et les Français, ils ont bien compris. Et t'inquiète pas qu'ils vont bien voter Marine Le Pen en 2027.
Vous vous rendez compte de toutes les sorties de cette semaine? On va en reparler plus tard dans l'émission. Mais cette semaine, si on veut faire un débrief des LFI, c'est il faut interdire les ultra-riches.
Ouais, interdire.
Il faut interdire les ultra riches.
Les nuisibles.
Si vous votez RN, on va faire la révolution. C'est quoi? C'est l'époque de Che Guevara.
Sans oublier quand même le passage de Rima Hassan qui souhaite arrêter ou abroger tous les dispositifs antiterroristes en France. Ouais. Faut quand même réagir.
Moi, je pense que cette époque, on en parlera victimes. Dans les livres d'histoire et on dira à nos enfants qu'on était là. Hein.
Plus de 300 victimes du terrorisme islamique en France. Ouais. Et ces gens-là, Rima Hassan, qui souhaitent lever tous les dispositifs antiterroristes.
C'est ce qu'on veut.
Je pense qu'on peut tous le dire autour de la table. Ces gens-là sont les ennemis de la France. Et il faut absolument pas qu'ils passent en 2027. Ils ne passeront pas.
Armand.
Moi, je suis assez inquiet des propos de Marine Tondelier parce que je pense que...
Ouais, oui. Ah bah attendez, on n'a pas un jingle pour... Tiens, Armand qui n'est pas d'accord avec les pistes, qui les défend.
Non, plus sérieusement, je suis assez inquiet par ces propos parce que je pense que, et comme je le dis très souvent, il faut regarder aussi quels sont les militants du parti pour comprendre l'idéologie de ce parti. Souvent, il faut analyser d'abord par ses militants et par ses soutiens. Et Marine Tondelier, très honnêtement, ça m'inquiète énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle participe à un processus démocratique qu'elle-même refuse de ce fait. Bon, déjà, il y a une espèce de dichotomie. Mais effectivement, j'appelle à la désobéissance civile. Quel que soit le moyen, c'est ça ces termes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain Marine Le Pen est élue, qu'est-ce qui se passe? On a une révolution, et tout dépendra du score aussi de la France insoumise. Si, comme les sondages le disent, bon, ils sont entre 15 et 16%, ça veut dire qu'ils se sentent légitimes aujourd'hui, peu importe le gouvernement en place, qu'il soit d'ailleurs, que ce soit Bruno Retailleau pour faire plaisir à Julien, que ce soit Marine Le Pen pour faire plaisir à d'autres, ou encore Édouard Philippe.
Attendez, moi je suis Édouard Philippe, j'aime pas du tout.
J'aime
pas du tout, c'est de la distribution des cartes.
Je vous ai absolument pas regardé.
Moi ça me convient.
Julien, faut lui convient de toute façon, toi tu gagnes. Non, plus sérieusement, c'est vraiment très inquiétant comme propos parce que ça veut dire qu'il s'estime légitime aujourd'hui à non seulement aller dans la rue et à faire une révolution et en fait à contester tout simplement le processus démocratique. Et encore une fois, que je le rappelle, eux-mêmes participent. Si on est anarchiste, on va jusqu'au bout de ses idées, on ne participe pas à ce genre de mascarade, selon eux.
Alex.
Je suis d'accord, Baya, je vous rejoins totalement dans votre coup de gueule. Et moi, il y a deux choses qui m'énervent. Enfin, il y a deux sujets qui m'énervent. C'est les non-dits qu'il y a à propos de ça. Le premier non-dit, c'est justement ce qu'ils vont faire exactement. Parce que comme vous l'avez rappelé Armand, ils appellent à la désobéissance civile par tous les moyens.
C'est quoi tous ces moyens
possibles, mais sans préciser ce que c'est. Et j'ai regardé cette interview de Mathilde Panot sur BFM TV. Elle était chez Apolline de Malherbe et Apolline de Malherbe lui a demandé à plusieurs reprises de préciser ses propos. Elle fait semblant de ne pas connaître la question et de répéter par tous les moyens possibles sans préciser vraiment ce qu'il compte faire. Et le deuxième non-dit qu'il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez du débat de la présidentielle de 2017 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, quand Marine Le Pen avait proposé de retirer le port du voile dans la rue, Emmanuel Macron lui avait dit yeux dans les yeux, si vous faites ça, c'est la guerre civile.
Oui.
Qui va faire la guerre civile? Qu'est-ce que ça veut dire?
Est-ce que
ça veut
dire que si j'ai des émeutes quand il y a eu l'affaire Naël?
Voilà. Dites-le clairement.
La France était à feu et à sang pendant une semaine.
Dites clairement, si jamais Marine Le Pen retire le port du voile, ou même juste si Marine Le Pen est élue, il y aura un Naël acte 2. Et au moins, ça sera clair. Mais ils font semblant de se cacher derrière le terme de désobéissance civile qui peut vouloir tout et rien dire, en fait.
J'ai entendu quelque chose qui m'a... Je suis tombée de mon canapé avant de venir. je pensais à vous, j'étais heureuse de vous retrouver. Et là, Rokhaya Diallo, chez notre magnifique Sonia Mabrouk. Je crois qu'on a regardé. Vous avez regardé ou pas?
J'ai bien regardé l'émission,
ouais,
effectivement.
Juste avant. Et elle compare ça. Elle dit à Sonia. Mais si nous n'avions pas désobéi en tant que femmes, nous n'aurions pas de droits.
Ça nous laisse perplexes, apparemment.
Non, mais.
C'est très difficile de commenter. J'ai vu le même esprit que vous, Rokhaya Diallo. Elle parlait du, notamment du droit de vote des femmes.
Oui.
Ça n'a absolument rien à voir.
Rien
à voir avec le sujet. Mais bon, là, on voit très bien que les insoumis et affidés, parce que je crois que Rokhaya Diallo n'a pas sa carte sur la France insoumise, mais c'est tout comme. Cherche la moindre excuse pour essayer de sauver ce dérapage qui, au final, n'en est peut-être pas un.
Non, parce que j'ai l'impression que tout le monde se donne raison. Hein. Je vous parlais juste avant de l'émission de cette dame-là. Vous savez, celle qui travaille avec Anis Kazib. Comment il s'appelle déjà?
Anis Kazib.
Anis Kazib, ouais, c'est ça. Je vous parlais
Révolution permanente, Anis Kazib.
Oui, c'est ça.
Anis Kazib.
Qui disait que. Qui passait. En fait, on lui a posé mille fois la question. En fait, elle est passée par mille chemins, mais au final, pour dire que c'était complètement justifié. Et ils sont, je ne sais pas combien, allés sur les plateaux de télé depuis hier et ils disent tous la même chose. Hein. Donc il y a des éléments de langage. Non, c'est pas du tout.
Oui, et puis qui sera le plus provoque?
Voilà.
Qui sera le plus anarchiste de tous.
C'est la période de la présidentielle, donc vive l'excès.
Oui. Johan, vous êtes très remonté ce soir, vous avez un coup de gueule. On va changer totalement de registre.
Ah, clairement,
vous
oui.
voulez nous parler de la ferveur, pour ne pas dire l'hystérie, parce que vous m'aviez envoyé un message en me disant l'hystérie, autour de la demi-finale de Secret Story.
C'est ça.
Secret Story.
Et
cette
oui, il y a
semaine.
Un programme qui a
là,
plus de 20 ans.
Alors ça fait rire rarement de dire ce que vous pensez.
Des gens regardent encore Secret Story?
Ah oui, oui. Bon, après, il n'y a pas les mêmes audiences qu'il y a 20 ans, mais c'est 500 000 téléspectateurs chaque.
Quand même.
Bon, après, c'était 10 millions à l'époque. Donc, voilà.
Expliquez-nous.
Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que deux femmes noires, donc Maguette et Greta, face à deux blanches, donc Paola et Océane, le public sauve les deux blanches et élimine deux femmes noires. Et là, c'est le délire sur X. Émission de raciste, les blancs méritent l'extermination. On a le droit à des propos complètement choquants et hallucinants. Émission raciste, certainement pas. L'année dernière, Romy, qui était une candidate noire, a remporté Secret Story. L'année d'avant, il y avait Alexis de Secret Story qui a gagné. Justement, il était noir. Donc non, ce n'est pas une émission de raciste. Si Paola et Océane ont accédé à la finale, c'est parce qu'elles étaient bonnes dans leur jeu. Et ce n'est pas parce que les Français sont racistes qu'ils ont éliminé deux noirs. Donc il faut arrêter de sortir la victim card pour n'importe quoi. Maintenant, il faut impérativement que les noirs gagne chaque émission de télé. Non, ça marche pas comme ça. Si une blanche est plus forte qu'une noire ou l'inverse, c'est que la meilleure gagne.
Mais le racisme est justement là, à ce niveau-là. C'est-à-dire le racisme est dans la volonté de résumer une personne noire en fait à son histoire, à sa couleur de peau et en lui disant tu vas forcément gagner, que tu sois nul ou pas.
C'est ça, alors que moi, quand je vois une candidate noire, je ne dis pas parce qu'elle est noire. Non, je vois une femme, je ne vois pas une couleur. Mm. Par contre, les noirs, c'est vrai qu'ils font une fixette justement sur la couleur de peau. C'est le blanc et les privilégiés.
Non, pas tous les noirs, attention.
Pas tous les noirs, mais moi je peux vous dire, alors j'ai mis des commentaires. Une certaine communauté, mais en tout cas. Non, mais
on regardait
après,
nous, on allait.
Non, mais soyons objectifs. Moi en tout cas, j'ai vu les commentaires sur X, c'était principalement des personnes issues de cette communauté-là qui tapaient sur le blanc en disant que le blanc il est privilégié et qu'en gros il n'a pas à gagner parce que t'as Greta qui est noire.
Non, mais il y a beaucoup de raids numériques, moi je l'ai vu sur Twitter,
mais
dès que vous critiquez.
Affolant, non, mais je vais vous lire.
Vous avez quelques secondes.
J'ai un truc, c'est. Les blancos, je vous répète, on vous pisse dessus. Vous méritez l'extermination, bande de créateurs de chaos. Vous avez juste honte. On shine tellement, brille pour les cons. On brûle vos rétines et vos esprits. Mais quand vous voyez un chien black, vous tremblez. Océane, Paola, deux handicapés ultra géants. Enfin, c'est hyper choquant. Enfin, moi, je suis désolé, mais si moi, en tant que blanc, j'aurais dit ça, j'aurais eu SOS racisme sur le dos.
Ah,
et là, le truc, c'est. Non, mais c'est ça. Et le problème, c'est que quand c'est des noirs qui disent ça, nous, les blancs, on doit fermer notre bouche. On doit rien dire parce que si nous, on ose l'ouvrir.
Non, mais là, vous rentrez dans le jeu en disant, oui, il y a les noirs et les blancs et on se.
Non, je rentre pas dans le jeu. Mais là, le mec qui insulte les blancs, qui dit, il faut exterminer les blancs, pourquoi nous, on pourrait pas porter plainte auprès des SOS racistes?
Ah, mais ça,
vous pensez
ça,
vraiment que SOS racisme, ils vont dire, oui, on va faire quelque chose pour les pauvres petits blancs qui sont menacés?
Ah, mais ça, je suis d'accord avec
vous. Non, parce que les blancs.
Mais évidemment, ils vont dire, il y a le racisme systémique et le racisme anti-blanc.
Et moi, je trouve ça insupportable, c'est qu'en fait, Secret Story, c'était un très bon programme qui.
Attendez, vous avez un adversaire en face?
Non, pas du tout un adversaire, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre l'appel des SOS racisme. On peut très bien saisir le procureur de la République et il faut pas hésiter à le faire. Il n'y a pas besoin d'attendre des associations quelconques pour porter plainte contre ce genre de propos qui sont totalement inadmissibles.
Oui, bien sûr.
Donc je pense qu'il faut arrêter de compter sur les autres. C'est pas pour revenir juste au débat, moi, je vais citer un ami que vous connaissez, Gary. Pourquoi ? Parce que en fait, à force de crier au racisme, effectivement, à force de crier au loup constamment, il y a des vrais cas de racisme qui passent à la trappe à cause de ce genre de conneries, à cause de ce genre d'abrutis, effectivement, de Twitter, qui appellent au racisme pour tout et n'importe quoi. Et Gary, par exemple, il fait partie de ces gens qui en ont absolument marre. C'est-à-dire qu'en fait, il entend des gens de sa communauté, on parle de communauté, j'aime pas du tout ça, il y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale, mais bon, qui font un appel au racisme constamment sur tout et n'importe quoi, et bah forcément, quand il y a des vraies situations de racisme, bah on a tendance soit à aller à The Menuire, soit à l'inverse. Donc il faut arrêter de crier au racisme toutes les deux secondes, il faut voir ce qui est raciste, ce qui ne l'est pas. Là, je ne connais pas forcément le contexte, mais deux blanches ont gagné, bon bah et alors, Aya Nakamura a présenté les JO, c'est super, tout le monde est content. C'est le talent qui prime, en fait. Il faut arrêter de voir tout par le biais de la couleur de peau constamment, et par le communautarisme constant.
Exactement, totalement d'accord avec Armand. J'ai des souvenirs, je n'ai pas regardé Secret Story, je suis désolé Johan. En revanche, j'en ai des souvenirs de quand j'étais beaucoup plus petit, à l'époque de Benjamin Castaldi.
C'est encore lui.
Et à cette époque, à cette époque-là, et on se posait pas du tout la question de la couleur de peau de la personne. Ça passait en aucun plan en fait, on s'en fiche complètement. Et je rejoins totalement Armand sur le fait que bon, ça, c'est les excès des réseaux sociaux, on les connaît tous, et ça invisibilise les vrais actes de racisme qui, eux, existent, et qui, eux, existent, et même, j'ai envie de dire, qui existent, alors, j'ai envie de dire, même parfois à l'intérieur d'une même communauté, même si je suis d'accord avec Armand, il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale, mais parfois, effectivement, entre eux-mêmes, il y a déjà des actes de racisme. Le racisme, il est international, et il faut lutter dans tous les cas. Mais, lorsqu'on regarde une émission, lorsqu'on voit une personne, on n'a pas à voir sa couleur de peau en premier. On s'en fiche. On regarde ses actes et la façon dont elle se comporte.
Je suis totalement d'accord avec vous. Alex ?
Moi, je vais faire très court. Je pense que Johan, vous l'avez dit vous-même. L'année dernière, Romy a gagné. C'est une noire. Fin du débat. Enfin, c'est une française noire. C'est dire comment le débat n'a même pas lieu d'être, en fait. Une noire a gagné l'année dernière. Le débat n'existe pas.
On peut juste faire la petite parenthèse Star Academy où justement il y avait Marine et Ebony.
Oui, c'était il y a deux ans, non ?
Oui, il y a deux ans. Ouais, et parce que Ebony a perdu. Bah, elle a perdu. Les Français, s'ils préfèrent Marine.
Non, mais je suis d'accord. Voilà. Bah, pour vous, ce genre de débat devrait encore avoir lieu ou...
Pour moi, c'est un débat, excusez-moi du terme, mais pour moi, c'est un débat d'abrutis sur Twitter. C'est pas la vraie vie, encore une fois. Il y a des vrais actes de racisme qu'il faut combattre, et je rejoins Julien là-dessus, dans la vraie vie. Il faut arrêter avec Twitter et tous ces excentriques qui prennent des sujets et qui en font des polémiques et qui en font in fine. Mais c'est là où je vous rejoins, Johan.
Ces gens-là existent vraiment.
C'est ça, c'est qu'in fine, ils en font des sujets, ils influencent in fine de l'opinion publique et ils créent des débats qu'on ne devrait pas avoir. Moi, je pense que.
Mais vous pensez pas que ça. Vous pensez pas que ce genre de message constant qu'on voit sur les réseaux sociaux ne sert pas à certaines personnes ?
C'est-à-dire
certains partis, certaines associations.
Si, bien sûr que si, ça sert énormément d'associations antiracistes et autres qui ne sont même pas, qui sont juste des associations militantes en réalité, qui se servent de ce prétexte. Et c'est assez dommage parce qu'il y a des associations de lutte contre le racisme qui sont invisibilisées, qui sont minimisées parce qu'elles font un travail qui est réel, contrairement à ce travail-là qui est de mise en avant de propos totalement stupides par certaines associations qui, effectivement, vous avez raison, se gavent là-dessus et qui jouent totalement sur le décolonialisme, sur l'insulte de l'histoire française. Ils sont révisionnistes d'ailleurs pour la plupart, ils changent carrément la conception et le roman national à leur sauce pour comme c'est écrit, hein, pour diaboliser le blanc.
Pour diviser les Français,
diaboliser le blanc, faire des guerres communautaires, parce que je vois qu'il y a aussi des guerres communautaires entre Algériens, de personnes issues d'immigration algérienne et marocaine. Enfin, il y a toujours des guerres constantes intra-communautaires qu'on ne devrait pas avoir en France. On est Français, réfléchissons d'abord à notre avenir commun avant de réfléchir à des particules.
Exactement.
Julien.
Donc, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Armand. En plus, l'histoire de la France fait que là, nous avons vu l'immense succès du film De Gaulle, qui a dépassé les 5 millions d'entrées. Et je m'en réjouis vraiment. Pour ma part, je suis même allé deux fois à chaque épisode.
Vous êtes un vrai gaulliste.
Je suis un vrai gaulliste, si on peut le dire.
Oh, tout le monde est gaulliste. C'est
bien
pour Mélenchon est gaulliste.
Beaucoup se revendiquent du gaullisme, mais lorsqu'on regarde les actes, on ne voit pas forcément l'adéquation. En revanche, dans le second volet, alors je vais pas non plus divulgâcher la chose, c'est les livres d'histoire, donc même si vous avez, pas vu le film, a priori vous connaissez la suite.
Spoil, il démissionne.
Exactement, on voit la différence, c'est que dans l'armée d'Afrique, il y a des Arabes, des Noirs,
des tirailleurs algériens,
des tirailleurs sénégalais qui ont participé, et même plus que participé, à la libération de la France.
Absolument.
Puisque la France libre a démarré avec ces tirailleurs sénégalais, ces tirailleurs algériens, et ensuite lorsqu'ils arrivent typiquement pour préparer le débarquement, c'est là qu'ils se font scinder en deux avec les Américains qui, eux, ont une histoire différente avec l'esclavage, etc., et qui, eux, ne veulent pas voir de Noirs dans leur rang. Et ce n'est pas l'essence de la France. La France, elle a toujours su accepter, de par effectivement son histoire, ses colonies, etc., elle a toujours su accepter ses différences, ethniques. Peut dire ethniques, exactement. Ça n'enlève pas que le racisme existe partout. Il y a des racistes partout et il faut combattre partout.
Yoann.
Non, bah moi j'ai clôturé mon sujet. Hein. J'ai
merci d'être venu. Venu commander un taxi, s'il vous plaît.
Où je peux rebondir, c'est que tu vois, là où je suis pas d'accord avec Armand, c'est que pour moi, les gens de Twitter, en fait, oui, tu dis que c'est virtuel, que c'est de la. Que ça reste sur les réseaux
sociaux. C'est pas représentatif.
Ces gens-là existent vraiment.
Et surtout, ils ont le droit de vote.
Et oui, mais c'est ça le truc.
Ils ont le droit de vote.
Et regarde, on parlait de film Vaincre ou mourir.
S'il vous plaît, vous pouvez parler dans le micro, on vous entend pas.
On parlait de film Vaincre ou mourir. Oui. Quand c'est sorti, ça a fait polémique parce que c'était un film qui représentait les valeurs de la France et t'avais tous les filles qui étaient.
Vaincre ou mourir, qui était un film sur les Vendéens, le massacre vendéen.
Exactement. Quoi que les Blancs fassent, même dans des films, eh ben, il faut toujours qu'il y ait une communauté qu'on dit racisée, parce que maintenant les gauchistes ne peuvent plus dire noir parce que c'est tabou, il faut dire racisée, eh ben, on tape sur tout ce que les Blancs font. Maintenant, même dans la TRT, partout. Et pour moi, je me dis, c'est pas que virtuel, ces gens-là existent, et comme le dit Axel,
Alex.
Je vais y arriver. Mais bon, moi, en même temps, voilà, je découvre.
Je nie pas du tout leur existence. Hein. Je nie pas du tout leur existence. Je dis que les propos qu'ils tiennent sont forcément beaucoup plus exacerbés que ce qui serait dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on peut se permettre, sous couvert d'anonymat et autres, de dire ce genre d'atrocité, mais dans la vraie vie, ils ne vous les diraient pas. Vous savez très bien que jamais il y a un mec qui sortira dehors et dira « Ah, je déteste les Blancs, sale Blanc ». C'est très rare. À part quelques déséquilibrés, c'est très rare. C'est la seule différence que je fais.
Les agressions anti-blancs.
Dans les écoles notamment, il y en a beaucoup qui subissent du racisme anti-blanc.
Et c'est là où j'ai rejoint Yoann sur l'impact de
Twitter,
effectivement.
D'ailleurs, il y a un truc très intéressant. Moi, j'ai vu une vidéo où c'est dans une école primaire, les Blancs doivent embrasser les pieds des noirs pour s'excuser de l'esclavagisme.
C'est aux États-Unis, ça.
Ouais.
C'est qu'on importe des conflits et qui existent au sein de la société américaine, qui sont profondément ancrés de par leur histoire, et on les importe en France alors que notre histoire n'a rien à voir avec celle des États-Unis.
Et moi, je me dis, c'est hyper grave d'en arriver là, quoi. Enfin, moi, quand j'ai vu la vidéo des petits blancs qui doivent embrasser les pieds des noirs, enfin, ils ont 8 ans, ils ont même pas connu l'esclavagisme, même moi, ni mes parents, en fait. Enfin, tu vois, bref. Moi, ça m'exaspère. Moi, c'était mon coup de gueule. Voilà.
Dans tous ses états.
C'était mon coup de gueule.
Vous écoutez toujours Radio Courtoisie, on ne va pas se mentir, nous espérons que vous passez de bonnes vacances. En tout cas, nous, oui, car nous sommes avec vous jusqu'à la fin de l'été.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité. Sans subvention, 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
On ne va pas se mentir, avec Baya Carla et sa bande, tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.
Très chers auditeurs, vous écoutez toujours On ne va pas se mentir. Merci d'être avec nous. Yoann Power est avec nous.
Rebonsoir pour les personnes qui viennent d'arriver.
Vous êtes toujours heureux d'être là.
Toujours heureux.
Julien, merci d'être avec nous.
Merci encore de votre invitation, Baya Carla.
On va passer à mon moment préféré. Et non pas parce que votre chronique est si bien construite, si bien alimentée en informations, mais simplement pour le jingle.
La tournée de la faux d'Alex.
Non, pas d'Axel.
Eh ben, j'adore toujours autant. Mais je suis surtout très ravi de savoir que vous préférez un jingle à ma personne. C'est très agréable, toujours aussi agréable, Baya.
Alex, on commence directement avec votre série Un jour un candidat. Est-ce que vous avez une nouvelle candidature à nous annoncer?
Allez, Baya, pour vous faire plaisir, je commence par votre série préférée, comme vous l'avez dit. C'est une info à laquelle on s'attendait déjà depuis un moment, mais elle est désormais officielle. Raphaël Glucksmann sera bel et bien candidat à la présidentielle 2027. Alors attention, il n'est pas encore vraiment sur la ligne de départ. Il sera dans un premier temps candidat à la primaire organisée par le Parti Socialiste. Il a fait son annonce au journal de 20h de TF1. Et puis évidemment, sa candidature a eu une conséquence que vous connaissez tous. Léa Salamé ne sera plus à la présentation du JT de 20h de France 2. Sur ses réseaux sociaux, elle a dit, je cite, « J'en avais pris l'engagement dès le premier jour et je m'y tiens. Cette décision prise en accord avec ma direction est évidente et difficile. » Fin de citation. Elle sera remplacée par un visage connu du service public, à savoir Jean-Baptiste Marteau. Et je précise que Raphaël Glucksmann a eu un mot pour sa dulcinée lors de son passage au JT de TF1. On l'écoute ensemble.
J'ai pris cette décision avec gravité. Je sais ce qu'elle implique pour mes proches et en particulier pour ma compagne. Et comme dans tous les couples, quand la décision de l'un a un impact aussi grand sur la vie de l'autre, eh bien, nous avons eu de longues discussions dans la vie de chacun. Il y a un moment où les combats que vous menez, eh bien, vous devez les mener jusqu'au bout. Il y a un moment où il faut assumer ses convictions. Et ce moment est venu pour moi. Je suis donc candidat à la présidentielle, pas pour faire une candidature de témoignage, mais pour la gagner et pour changer la France.
Attends, alors, vous avez dit qu'il s'appelle comment celui qui va la remplacer ?
Celui qui va la remplacer est Jean-Baptiste Marteau.
Je l'ai vu dimanche.
Ok, ouais. Vous avez des connaissances, Baya, c'est
chez
bien.
Chez Brico Dépôt.
Ok.
Vous connaissez okay. Tout Paris là, à Brico Dépôt.
Vous avez pas compris la blague ?
Ah d'accord, ok. Ah ouais, ok. Oh là ! Waouh.
Waouh, je...
Je suis désolé, ah ouais, je suis désolé. Mal, normalement,
non,
je suis ce genre de van, mais je suis désolé, je l'ai raté. Je suis désolé.
En fait,
j'ai été tellement happé par le discours de Raphaël Glucksmann que j'étais pas.
Baya Carla, ah, il y a Brico Dépôt aussi.
Mais vous savez que paraît que c'est un véritable requin.
Ok.
Oh là là,
alors. Alors je vais remettre un petit peu de sérieux dans ce studio parce que là c'est Baya et Armand Tiquetac là je donc du coup autour de la table je vous pose une première question comme Raphaël Glucksmann avec gravité. Quelles sont les chances de Raphaël Glucksmann pour vous de se qualifier lors de la primaire pour la présidentielle 2027?
Moi,
celui qui veut se lancer se lance.
La tâche est
ardue. Moi, je
Johan.
Me lance. Hein, moi, ils ont plus de chances d'être élus le couple le moins charismatique de l'année que d'accéder au pouvoir.
C'est méchant pour Léa Salamé.
Bah, qui a beaucoup de charisme.
Ouais, moi j'aime.
Qui a beaucoup de charisme.
Moi, je déteste cette femme. Pour moi, non. Le truc, c'est que il a 0% de chance. Pour moi, c'est tout ce qui est. PS, tout ça, c'est des partis qui maintenant n'ont plus de poids.
Non, alors la question, c'est à votre avis, quelle chance il a de remporter la primaire, pour l'instant, juste à la primaire, à la rigueur.
Franchement, si je dois donner un pourcentage, je dirais, si déjà il arrive à faire 10%, ce serait énorme, mais moi je pense qu'il ferait moins.
Ça dépend, il y a qui à la primaire?
Non, effectivement.
Ouais, mais attends, il voilà. Y aura les filles, le RN et
non,
tout.
Non, la primaire du PS.
Primaire du PS.
Je pense qu'il a de réelles chances, honnêtement. Ouais. Je ne connais pas les arcanes du pouvoir du PS, mais cela dépendra évidemment de l'entrée en campagne ou non de François Hollande, qui je pense, pourrait lui ravir la place, qui pourrait être le recours du PS, effectivement, face à la situation politique actuelle. Je pourrais pas donner un pourcentage, mais je pense que si François Hollande est présent dans la course, ce sera François Hollande.
Armand.
Moi, je pense qu'il est très bien entouré, Raphaël Glucksmann. Il a des gens compétents autour de lui, dans son cercle proche, hein, notamment Sacha Houillé, par exemple, que je trouve assez compétent. Monsieur Brochet. Enfin voilà, il y a quand même certains cadres qui le soutiennent. Maintenant, effectivement, moi, je rejoins Julien totalement là-dessus. C'est que si François Hollande est candidat, ça va être très compliqué pour lui. Après, pour ce qui est de la présidentielle, si on en parle.
Non, mais attendez, vous croyez vraiment en François Hollande?
François Hollande a une cote à gauche. Pour la primaire interne, on parle. Hein. Pour la primaire interne, François Hollande, c'est encore un des ténors de ce parti, quand même. Vous savez, quand il reste trois personnes dans le parti,
ils sont trois, il faut bien
savoir. C'est la dernière fois que la gauche a gagné la présidence.
C'est la dernière fois que la présidentielle a été gagnée.
Ouais, mais bon, c'est comme retourner avec son ex, quoi. C'est un peu un cadeau empoisonné.
C'est des choses qui arrivent.
Vous avez besoin de vous confier ce soir?
Non, pas besoin.
Et question rapide, réponse rapide. À votre avis, est-ce que Jean-Baptiste Marteau fera une meilleure saison que Léa Salamé l'a fait cette année? En termes d'audience notamment.
Je vais être très honnête avec vous, hein. Je suis féru de télé, mais je ne vois absolument pas qui c'est.
D'accord. Pourtant, il présente. C'est un joker du JT de France 2, donc c'est un visage assez connu.
Je sais pas si je connais son visage.
Physiquement, je vois qui c'est, mais après, je peux pas te dire vraiment ce qu'il dégage en plateau, si vraiment c'est un mec qui arrive à fidéliser des gens. Je sais que Léa Salamé, il y avait beaucoup de bourdes.
et beaucoup de personnes justement fuyaient.
Ouais, moi, Salamé, je la voyais pas du tout sur ce genre de format. Je trouve qu'elle est très bien dans
sur
quelle
époque. Sur le divertissement, complètement.
Ça, ouais, elle est pas mal parce qu'elle a un côté un peu frais. Bon, moi c'est pas du tout, c'est pas du tout ce que je regarde.
JT,
je regarde quelques extraits, mais je trouve que JT c'est un peu trop sérieux. Moi, je trouve que c'est moins.
Un peu trop cadré pour elle, peut-être.
Oui.
Puis le problème, c'est que c'était une personnalité, vous l'avez dit, hein, assez clivante. Donc c'était aussi assez compliqué.
Clivante et un peu people. En fait, moi, pour le JT de 20h, je vois plutôt quelqu'un qui soit assez neutre.
Claire Chazal, formidable.
Oui, Claire Chazal, bien sûr.
C'était formidable, Claire Chazal.
Je suis totalement d'accord.
Anne-Sophie Lapix, c'était très bien aussi.
On a une info qui concerne un élu de la France Insoumise qui ne cesse de faire parler de lui. Alors oui, vous me direz qu'ils sont beaucoup à être dans ce cas-là. Mais Alex, vous allez nous dire de qui il s'agit.
Eh bien, Baya, il s'agit de Bali Bagayoko, dont on parle beaucoup
notre
depuis son élection,
ami.
Évidemment. On parle énormément de lui depuis son élection à la mairie de Saint-Denis. Et on est potentiellement sur une première petite casserole qui pourrait le suivre, puisqu'il fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds publics. Il s'agit d'une enquête du PNF, hein, le Parquet National Financier. Et l'enquête a été officiellement ouverte le 19 août dernier. C'est une enquête du Canard Enchaîné et une plainte de l'association AC Anticorruption qui l'a mis dans la sauce. Alors je précise que pour l'instant, il ne s'agit que d'une enquête préliminaire qui vise à procéder aux vérifications utiles concernant les conditions d'emploi de Bali Bagayoko à la RATP. Car oui, au cas où vous ne le saviez pas, hein, Bali Bagayoko occupait un poste de cadre à la RATP.
Ah bah, ça va plaire à Johan, ça.
Exactement.
Il y a des comptes à régler à la RATP.
Il occupait un poste de cadre à la RATP en même temps qu'il occupait un mandat local. Mais il est visiblement soupçonné d'emploi fictif à l'image de Pénélope Fillon il y a quelques années, on s'en souvient. Mais pas de panique pour Bali Bagayoko, qui peut compter sur le fervent soutien de Mathilde Panot, dont on va parler une nouvelle fois. Puisque, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans l'émission, elle était chez Apolline de Malherbe en début de semaine et elle a pris la défense du maire de Saint-Denis. On l'écoute ensemble.
Mathilde Panot, Bali Bagayoko est visée par une enquête pour détournement de fonds publics qui a été ouverte par le Parquet National Financier pour détournement de fonds publics, recel et concussion. Concussion, c'est un délit commis par un agent public qui perçoit ou exonère illégalement une somme d'argent. Comment vous réagissez?
Les accusations ont été démentées par la RATP. Elles ont été démontées par des élus, y compris de droite. Donc, je le dis aux gens qui nous écoutent.
Vous pouvez compter sur moi.
Ne croyez pas les choses qui sont dites sur nous. Vérifiez tout. Et cette campagne est une campagne qui s'annonce d'ores et déjà avec des calomnies.
Mais au-delà de la question,
ne les croyez pas.
Alors, moi, je vais me permettre de prendre la place d'Armand aujourd'hui. Je vais défendre la France Insoumise.
Ça va être compliqué pour vous prendre la place d'Armand.
Mais en fait,
il va falloir jouer Alex.
Vous êtes horrible. Mais est-ce que vous n'en avez pas marre justement de toutes ces enquêtes comme ça à destination des élus? Une enquête pour détournement, une enquête pour ceci. J'ai l'impression qu'on cherche tout le temps à fouiner pour aller embêter les élus. Et moi, personnellement, ça commence un petit peu à m'embêter. Je voulais savoir ce que vous en pensiez un petit peu autour de la table.
Je dirais qu'effectivement, il y a une judiciarisation globalement inquiétante de la sphère politique. Sur ça, sur ce point, je peux vous rejoindre. En revanche, sur l'affaire ici... qui concerne Bali Bagayoko. Évidemment, on ne peut pas s'exprimer, il y a toujours la présomption d'innocence.
Bien
le
sûr.
Parquet national financier fera son travail. Mais ce qui, pour moi, est le plus intéressant d'observer, ça a été la réaction de la France insoumise. Alors, j'ai décrit ça comme, pour moi, du grand art. Je sais que ça fera plaisir à Armand. Mais pourquoi
décidément, Armand, la cote ce soir. Hein.
Pourquoi du grand art? Parce qu'en fait, c'est en trois lettres, en trois temps. Le A pour antisémitisme, je vous expliquerai après. Le R pour racisme et le T pour tout le monde contre nous. Pourquoi le A, antisémitisme? Vous l'avez dit, l'affaire a démarré par un article du Canard Enchaîné avec un journaliste, monsieur Aziza, qui apparemment serait de confession juive, donc il n'en fallait pas plus à la France Insoumise pour revenir à ses instincts naturels et dire que potentiellement c'était peut-être un complot juif. Devant l'inefficacité de l'action, ils ont décidé de passer au second plan. La lettre R, le racisme, Bali Bagayoko a dit qu'effectivement, cette affaire a été montée parce qu'il était noir. On revient encore une fois sur la couleur de peau. Encore une fois, échec de l'argumentation. Donc là, on voit toute la France insoumise aller sur tous les plateaux pour dire « mais tout le monde est contre nous, nous sommes des victimes ». Et en fait, on se rend compte tout simplement qu'ils sont en train de nager et ils n'ont rien à dire sur le sujet. Le mieux, c'est d'attendre que le Parquet national financier fasse le clair sur la situation. Peut-être Bali Bagayoko est-il coupable, peut-être est-il innocent. En attendant, on voit dans la réaction de la France insoumise qui retombe toujours sur leurs pattes avec l'antisémitisme, le racisme et ensuite la victimisation.
Armand.
Absolument d'accord. Je vais même aller plus loin. C'est les propos justement de Mathilde Panot. Ne croyez pas ce qu'on dit sur nous. Regardez les faits. Bah, les faits, c'est quoi? Les faits, c'est que le parquet a saisi l'affaire. Enfin, factuellement. Donc oui, effectivement, il y a la présomption d'innocence, il n'est pas coupable. Mais factuellement, le parquet a été saisi. Donc les faits sont là. Après, vous avez dit que c'était ça. Nouvelle casserole, sa première casserole. Non, 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 la première casserole, c'était ses liens avec les dealers, qui avaient été également révélés par la presse. Cousin, il y avait des potentiels liens, effectivement, avec des trafiquants, des narcotrafiquants. Moi, je pense qu'à chaque fois, effectivement, ils s'en sortent par cette pirouette, comme l'a très bien dit Julien. C'est, on est persécuté soit par les juifs, hein, c'est tout de suite... parce que
le complot juif.
Mais parce que je vois absolument pas le rapport entre le journaliste et l'affaire, en fait. C'est ok, il y a un journaliste qui a saisi l'affaire. Pourquoi rappeler qu'il s'appelle Aziza, qui serait de confession juive? Quel intérêt? Enfin, c'est-à-dire qu'il aurait été catholique, il aurait eu un problème. Il aurait été musulman, ça aurait été un problème. Pourquoi rappeler la confession de la personne? Enfin, il a le droit de c'est son travail de journaliste. Il a fait son travail de journaliste. Si M. Bali Bagayoko n'est pas coupable, bah, il sera innocenté. Point.
Bon, vous savez ce qui m'a touché, c'est qu'il n'a pas offert ses vélos.
Mais pas encore, pas offert ses vélos. Mais oui, mais parce qu'en fait, il faut les payer, les vélos. Mais le problème est là. Hein,
rien n'est gratuit dans la vie. Hein.
Il n'a pas offert les vélos.
Faut les acheter, quoi.
Yoann.
Non, après, si les faits sont avérés et qu'il y a vraiment un enrichissement personnel derrière, oui, voilà. Mais le truc, c'est que moi, ce qui m'agace, c'est que pour Marine Le Pen, quand il y a eu les détournements d'argent, là, on entendait les amis de Bali Bagayoko dire voilà, Marine Le Pen, elle a volé les Français et tout. Mais là, aujourd'hui, on n'entend pas les gauchistes qui accable Bali Bagayoko concernant cette affaire.
C'est le fameux deux poids deux mesures, c'est-à-dire que. Mais après, c'est aussi le jeu de la politique.
C'est le jeu de la politique. Quand Marine Le Pen a été accusée, son camp l'a défendue en disant qu'elle était innocente. Bali Bagayoko est accusé, son camp le défend en disant qu'il est innocent. Je vois pas ça déconnant.
Défendre la personne, certes, pourquoi pas. En revanche, cela n'implique pas forcément d'aller tomber dans des attaques, dans du racisme, de l'antisémitisme.
Ah oui, par contre,
c'est une marque de fabrique de LFI.
Ça, je suis d'accord avec vous.
Visiblement, Alex, on continue avec la France insoumise à l'approche de la présidentielle, mais surtout en cette rentrée, ça s'agite un peu du côté de la gauche. Comment ça se passe dans leur rang?
Alors, je vous précise, c'est pas une spéciale LFI. Hein. Je sais qu'on peut voir beaucoup d'eux aujourd'hui, mais c'est pas une spéciale. Promis, c'est le dernier sujet. Alors, je vais pas vous mentir, chez LFI, tout a l'air de bien se passer. C'est plutôt du côté des écolos en fait, où rien ne va, personne n'est d'accord avec personne et clairement niveau stratégie on sait pas du tout où ils vont. Une partie des écolos ne veut absolument pas faire d'alliance avec la France insoumise, c'est le cas par exemple de Marine Tondelier, on le sait très bien, elle souhaite accéder aux plus hautes fonctions de l'État, elle est plus que déterminée à se lancer dans la course à la présidentielle alors que ses chances de victoire sont très très minces. Et visiblement c'est aussi ce que pensent certains membres de son équipe. Je voulais vous faire écouter les propos de Sandrine Rousseau, que tout le monde adore ici évidemment, je suppose.
Ah bon.
Moi j'ai défendu la fois dernière.
Il y a quelques jours au micro de France Info, elle s'est exprimée au sujet de l'alliance avec LFI. Et pour elle, c'est très clair, Marine Tondelier n'a aucune chance de poser ses valises à l'Elysée l'année prochaine. Alors de son côté, elle prône une alliance avec la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. On écoute ses propos et on réagit juste après.
Moi, je prône l'alliance vers LFI. Je la prône sur une base programmatique, mais je voudrais pas qu'on passe des mois et des semaines de discussion. Et en fait, j'en appelle vraiment à la direction, à Marine Tondelier en premier, mais aussi à toute la direction, de dire arrêtez de tergiverser, arrêtez d'hésiter. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un espoir que la gauche gagne face au Rassemblement National. La candidature de Marine Tondelier, manifestement, ne décolle pas dans les sondages et on ne peut pas rajouter des candidatures à gauche. Qu'on le tranche et que la démocratie aura au moins cet effet-là, que la décision qui sera prise sera légitime. Si c'est l'option alliance avec LFI qui gagne, ce sera Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, c'est le candidat le mieux placé à gauche pour passer le premier tour. Donc,
Alors, j'ai plusieurs questions, je vous les pose en one shot et je vous laisse répondre en commençant par Armand.
Allez.
J'ai hâte de savoir ce que vous allez répondre à ces questions. Donc, première question, qu'est-ce que vous pensez du manque de confiance de Sandrine Rousseau envers sa candidate? Deuxième question, est-ce que Marine Tondelier, selon vous, aurait des chances d'accéder aux plus hautes fonctions de l'État? Et enfin, est-ce que vous pensez que Sandrine Rousseau pourrait faire une meilleure candidate que Marine Tondelier pour les écolos?
Est-ce que vous me permettez de répondre par une autre question? mais vous allez voir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Marine Tondelier tient absolument à être candidate? Pourquoi tous ces petits candidats, que ce soit Raphaël Glucksmann, que ce soit Marine Tondelier, que ce soit Dea Céline ou autres, qui savent très bien qu'ils ne vont jamais accéder au second tour, ils sont conscients quand même de leur capacité à faire un certain score, pourquoi est-ce qu'ils y vont quand même? C'est ça la véritable question. Pourquoi tous ces candidats y vont? C'est simple. C'est parce que cette élection présidentielle, avant tout, elle sert à 1. Montrer que le parti existe encore. Voilà. 2. C'est transformer un potentiel score en une puissance électorale. Parce que si on fait aujourd'hui 2% ou 3%, on pourra dire je représente 3% des électeurs français. J'ai un certain poids politique. 3. C'est pour les négociations des législatives. Et Marine Tondelier a raison de maintenir sa candidature. C'est que si elle fait 2 à 3%, elle pourra très bien négocier certaines circonscriptions plus tard dans son propre camp avec la France Insoumise, la NUPES ou le NFP, je ne sais plus comment on appelle ça, mais pour avoir plus de circonscriptions, qu'est-ce que l'on aurait en rejoignant aujourd'hui, dès le début des présidentielles, la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Là où par contre, je comprends l'inquiétude, attention, je comprends, je dis pas que je cautionne, l'inquiétude de Sandrine Rousseau, c'est qu'effectivement, si Marine Tondelier ou Glucksmann encore ne rejoignent pas Jean-Luc Mélenchon dès le premier tour, potentiellement, il ne se qualifiera pas au second.
Mais attendez, il faut faire bonne figure au moins dans les médias, enfin, je veux dire... Là, on a l'impression qu'ils n'ont même pas discuté entre eux, quoi. Il y a une sorte de bagarre médiatique.
Mais parce que c'est un courant qui est traversé par énormément de conflits. Moi, j'ai regardé la conférence de presse, justement, de Sandrine Rousseau et de, le colloque, pardon, de Sandrine Rousseau et de Philippe Poutou. Et Philippe Poutou qui a rappelé durant ce colloque que Jean-Luc Mélenchon avait parfois des crises autoritaires, qu'il avait parfois des postures qui étaient problématiques et autres. C'est-à-dire que Philippe Poutou, malgré le fait qu'il s'allait à lui, le critique. Donc il y a beaucoup de courants qui traversent la France insoumise, beaucoup de courants qui ne sont pas d'accord entre eux, et c'est vrai que cette alliance bâtarde un peu a beaucoup de mal à tenir sur la longue durée.
Julien.
Écoutez, je ne vais pas avoir l'outrecuidance de juger les dissensions internes des écolos, puisque étant chez les Républicains, on connaît malheureusement un peu trop ça. Un peu trop souvent.
Il y en a plus.
J'aimerais Armand.
Ils sont tous partis.
non, malheureusement, il en reste. Mais bon, ce sera peut-être le sujet d'un autre débat. S'agissant des écolos, écoutez, Sandrine Rousseau, ça fait bien longtemps que je n'écoute plus vraiment ce qu'elle dit, ou du moins d'une oreille, je préfère lire son homonyme presque, Sandrine Rousseau, sur Twitter. Moi, ça me fait beaucoup...
Très bon compte.
Ça me fait beaucoup plus rigoler que ce qu'elle dit. Non, on assiste vraiment à un schisme, en fait, chez les écolos. Il y a ceux qui sont pro-PS et ceux qui sont pro-LFI. Et comme l'a très bien dit Armand, le fond du sujet, il est double. Exister... faire monter un peu le bruit, exister au cas où d'aventure, parce que je ne souhaite pas Jean-Luc Mélenchon arriver à la présidence de la République, histoire, on ne sait jamais, peut-être avoir un ministère. Donc ça, on peut le mettre à part. Et ensuite, effectivement, les législatives, parce que les écolos le savent bien, aux législatives, sans la France insoumise, il n'existe pas.
Bien sûr.
Et donc, ils pensent uniquement à ça. C'est tout.
Sauf que Sandrine Rousseau n'a pas besoin justement des Verts pour être candidate et pour gagner sa circonscription.
Et on voit d'ailleurs effectivement que Sandrine Rousseau, elle, part plutôt du côté d'LFI et Yannick Jadot, lui, s'est prononcé pour Raphaël Glucksmann. Donc il va y avoir ce camp qui est en interne, mais ça, je laisse les écolos.
Mais du coup, à votre avis, une candidature Rousseau ou Tondelier, laquelle ferait un meilleur score à la présidentielle ?
Tondelier. Johan, vous dites Tondelier.
Ouais.
Pourquoi ?
Parce que Tondelier, elle a ce truc beaucoup moins barré qu'une Rousseau. Moi, je trouve que Rousseau, elle envoie une image de folle, alors que Marine Tondelier... Non, mais c'est vrai, vous rigolez, mais très clairement, je trouve que Marine Tondelier est beaucoup plus crédible, en tout cas, dans ses prises de position, en tout cas, à la télé.
Alors présidentiel, quoi.
Ouais, voilà, alors que Rousseau sort une connerie toutes les 10 secondes. Enfin, il y a, comme tu dis, Sardine Rousseau, enfin, tout le monde se fout de sa gueule, alors que Marine Tondelier, je trouve qu'elle a
faudrait
plus
qu'elle change
une posture que Rousseau. Après, bien évidemment, j'aime pas les deux, mais moi je trouve que Marine Tondelier, ouais, elle a plus de chance que Rousseau.
Moi, je suis d'accord sur Marine Tondelier parce que pour moi, Marine Tondelier a plus d'espace électoral que Sandrine Rousseau, qui elle. Sandrine Rousseau.
On confond souvent.
Que Sandrine Rousseau, qui elle, bah, ses voix aujourd'hui et son électorat est à la France Insoumise. Et si demain il y a le choix entre la France Insoumise et Sandrine Rousseau. Si demain il y avait le choix entre Sandrine. Rousseau et non pas Rousseau et Jean-Luc Mélenchon, ils iraient vers Jean-Luc Mélenchon. Alors qu'à l'inverse, l'électorat de Marine Tondelier, je pense pas qu'il irait vers Jean-Luc Mélenchon, il irait plutôt vers un Glucksmann. Donc c'est vrai qu'elle a un espace électoral pour moi qui est beaucoup plus crédible que celui de Sandrine Rousseau.
Je vais aussi me lancer, hein, parce que tout le monde l'a dit, juste pour rassurer tout le monde, effectivement. Si je devais choisir, je pense que ça serait Marine Tondelier également pour les mêmes raisons que Johan. Sandrine Rousseau, attention également. elle est beaucoup trop dans l'excès. Je pense que les Français ne peuvent pas la prendre au sérieux.
Yohann.
Juste une petite question. Marine Tondelier n'avait pas dit de faire barrage justement qu'elle ne voulait pas s'allier à LFI il y a quelques mois de ça.
Si, justement. C'est le cœur du sujet.
Oui, on parlait de Rousseau.
Pour le premier tour.
Voilà.
Okay. On verra le second.
Il ne faut pas se méprendre. La déclaration de Marine Tondelier sur la désobéissance civile dont on a parlé précédemment, c'est justement pour donner des gages à LFI.
Bien sûr.
C'est pour leur montrer, voilà, je suis avec vous, vous inquiétez pas, je parle comme vous, donc on peut commencer à discuter.
Et on travaillera ensemble plus tard, bien sûr.
Exactement.
C'est l'une des infos qui a été énormément relayée ces derniers jours. La France vient de nouer un partenariat avec l'Arabie Saoudite qui devrait ravir les petits comme les grands.
Effectivement. effectivement, et nos auditeurs pourront nous dire en commentaire sur nos réseaux sociaux ce qu'ils en pensent. En début de semaine, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman était en visite officielle en France pour 2 jours. Cette venue avait pour objectif de resserrer les liens encore plus entre les deux pays, la France et l'Arabie Saoudite, car le prince a évidemment rencontré Emmanuel Macron, et cette visite nous a permis d'apprendre une nouvelle qui, comme vous l'avez dit, devrait ravir beaucoup de Français. L'Arabie Saoudite prévoit d'investir prochainement 6 milliards d'euros pour créer 3 parcs d'attractions près de Paris. Le projet a été présenté par Emmanuel Macron comme du jamais vu depuis Disneyland. Selon les estimations, c'est un projet qui pourrait être à l'origine de la création d'environ 22 000 emplois. Et la grosse nouvelle, c'est que l'un de ces parcs devrait être centré sur le thème de Dragon Ball Z, une très grosse franchise japonaise qu'on n'a plus besoin de présenter évidemment. Et pour la localisation, le parc devrait être situé près de Cergy-Pontoise dans le Val d'Oise. Alors question simple, est-ce que vous validez ou non ce projet de grosse envergure?
Allez au puits du fou. Non, moi je suis assez étonnée parce que, en fait, je suis assez partagée sur cette idée. C'est-à-dire que d'un côté, moi ça me dérange beaucoup que des Saoudiens... Vous regardez comme ça.
Non, moi, je
vous m'attendre
au tournant. Complètement, je vous attends au tournant. Moi, je suis très heureux de cette nouvelle. Je vous laisse non, déjà terminer.
C'est pour Dragon Ball Z, vous vendez votre âme.
Bien sûr,
vous
bien sûr c'est pour Dragon Ball Z.
Non, moi, je suis assez partagée parce que, encore une fois, ça me dérange que que Mohamed Ben Salman investisse autant d'argent en France, que derrière, bah, y a aussi... il va y avoir d'autres tombées. Cependant, j'ai vu que beaucoup d'habitants qui avaient des commerces aux alentours étaient très heureux parce que ça va permettre d'avoir davantage d'affluence dans les commerces, dans les hôtels. Certaines personnes prévoient d'acheter des appartements pour y faire des Airbnb, donc ça va relancer l'économie de la région. Mais j'ai un petit souci quand même avec cette histoire d'investissement saoudien, Armand.
Alors, d'un point de vue géopolitique, je suis plutôt d'accord avec vous. Je pense que l'influence de l'Arabie Saoudite ne fait plus aucun doute aujourd'hui en France. C'est pas
oui,
ce parc,
quand vous disiez Emmanuel Macron a rencontré.
C'est pas ce parc d'attractions qui va changer
la
donne.
C'est pas la première fois.
C'est que oui, on a déjà.
Ah non, c'est pas la première fois évidemment. Ils se sont rencontrés cette semaine, je veux dire.
On a déjà énormément d'investissements de la part de ce pays en France qui ont été fructueux d'ailleurs. Hein. Je vous rappelle juste 2 Ligue des Champions consécutives. C'est un petit plaisir.
Merci Armand.
C'est pas le Qatar.
Ça c'est le Qatar, c'est vrai.
Attendez, le Qatar et l'Arabie Saoudite, c'est pas la même chose.
C'est
hein.
absolument
Ils
pas la
sont
chose.
Même
non,
en concurrence.
Je parlais des investissements étrangers qui sont faits et qui sont plutôt bénéfiques, notamment celui-là, notamment le Qatar pour le PSG. L'Arabie Saoudite a déjà investi dans des vignes, il a investi dans des hôtels, enfin, ils ont déjà beaucoup investi en France. Moi, je suis très content parce que, un, ça va créer de l'emploi, vous l'avez dit, ça va donner une attractivité économique assez importante à la région. Et 3, c'est le parc à thème, effectivement, c'est Dragon Ball Z.
C'est vraiment la définition de donner l'heure du pain et du vin. Quoi,
mais
et
non, mais
du pain, des, du vin et des jeux.
Mais Bayard, regardez comme ses yeux brillent. C'est magnifique.
Juste avant, vous avez dit il faut aller au Puy du Fou. Évidemment qu'il faut aller au Puy du
Fou. Bien sûr.
Mais on peut avoir accès à différents types de cultures. Et je suis désolé.
C'est vrai que j'ai un petit truc pour Disneyland.
Ah bah voilà, l'américanisation, la petite souris américaine.
Non, mais les US, ça va.
La petite souris américaine, ça va.
Julien.
Alors écoutez, comme vous, Baya Carla, je suis partagé sur le sujet. Alors si on regarde ce projet rapidement ou avec émotion, comme Armand, on voit que du positif. Effectivement, Dragon Ball Z, ça me parle, c'est à peu près ma génération également. On voit également la création de 22 000 emplois dans le Val d'Oise, 80 000 emplois indirects, ce qui effectivement n'est pas...
C'est
un projet conséquent et n'est pas négligeable pour le département. C'est 6 milliards d'euros d'investissement. On peut se dire, en plus c'est un parc, il y en a 2 derrière qui vont suivre. On peut dire qu'effectivement, on peut que se réjouir de ce projet-là. Et d'ailleurs, Thierry Breton en a parlé hier soir chez Sonia Mabrouk, on en reparle. Et c'est le reproche que je ferai à son intervention. Il disait qu'en gros, ceux qui ne trouveraient pas ça magnifique seraient un peu des rabat-joie. Écoutez, je vais faire un peu le rabat-joie, puisque je ne vais pas m'arrêter donc à la surface de la chose. Je regrette que, effectivement, la France, vous avez parlé du Puy du Fou, qui est un formidable parc, a été élu meilleur parc du monde, peut-être au moins à une reprise, c'est sûr, et dont les spectacles ont été plusieurs fois élus meilleur spectacle au monde. Ce n'est pas un parc d'attraction, mais un parc à thème, c'est différent. Et je trouve dommage que la France se destine à devenir la foire de la culture étrangère. Alors, si c'est un parc Dragon Ball Z, admettons, pourquoi pas. J'attends de voir ce que vont devenir les 2 autres parcs.
Attendez, le titre est fou quand même. Dragon Ball Z, c'est quoi? C'est japonais.
C'est japonais.
Donc, un parc à thème japonais en France, financé par des Saoudiens.
Après, il faut pas non plus.
Et je suis sûr qu'ils vont servir. Il y aura un McDo certainement dans le.
C'est ce qu'on appelle la mondialisation.
Les mangas sont très réputés en France. Il y a beaucoup de lecteurs de mangas. Ça, il faut le dire.
Un des plus gros pays consommateurs.
Non, mais exactement. Ça peut faire de l'emploi. Moi, ce qui me dérange, c'est le côté. Ça reste l'Arabie Saoudite. Mais après.
Qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron? D'ailleurs, je vais dire un mot sur le tweet d'Emmanuel Macron, qui pour moi n'est clairement pas à la hauteur d'un président.
Vous avez vu l'image en IA
Non, heureusement, je suis passé à côté de ça. mais Emmanuel Macron, quand même, il faut le rappeler, avait dit qu'il n'y a pas de culture française. Donc, à partir de là, ne vous attendez à rien.
C'est vrai.
Yoann,
je suis extrêmement heureux de cette nouvelle parce que je suis un très grand fan de Parc d'attraction.
Du pain, du vin et des jeux.
Et pour moi, on peut pas comparer le Puy du Fou, qui est un magnifique parc d'attraction où j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois.
Parc à thème. Julien l'a dit.
Oui, parc à thème. Mais moi, ce que je recherche, en tout cas pour ma part, c'est des sensations fortes que je ne peux pas retrouver au Puy du Fou. Et moi, je trouve que c'est quand même. Bah si, non, mais il y a pas de montagne russe.
C'est de l'émotion. C'est de l'émotion.
Autre émotion.
Sur la charte de Murat à Hello, vous serez à l'intérieur.
Moi, voilà. Et forcément, oui, je suis très content de cette nouvelle. Et d'ailleurs, on ne sait même pas les deux autres thèmes.
Non,
ça n'a pas été dit. Donc, je pense que ça restera dans la thématique des mangas. Mais en tout cas, moi, je suis très content de cette nouvelle. Ouais.
Alex, je sais que vous êtes content. Vous êtes quelqu'un d'heureux dans la vie.
Non, bah, en vrai, j'avoue que j'ai une position très neutre à ce sujet. J'ai regardé un petit peu Dragon Ball Z quand j'étais jeune, mais pas particulièrement. J'ai jamais été comme un fou. J'ai aimé, hein, mais j'ai jamais été un fan de Dragon Ball Z. Je suis pas du tout un fan de manga de manière générale, et moi j'avoue j'ai peur des attractions, donc de toute façon quand faudra aller dans le Kamehameha géant moi je vous avoue je suis le gars en fait qui garde les enfants sur le côté.
Le prochain week-end team building, ça sera au parc des séries.
Alors moi je suis un très bon accompagnateur dans les parcs d'attractions, mais quand faut monter dans Osiris ou je sais pas quoi,
moi je garde les
voilà, je vais chercher les boissons, comme ça vous avez à boire.
Carla, une émission en direct du parc Dragon
Ball Z. Une déloc, ça peut être pas mal.
Vous avez les moyens, vous financez?
Non, mais Radio Courtoisie.
Vous n'avez pas un ami, un cousin de Mohamed Ben Salman?
Dans le début d'émission, vous ne disiez pas que vous étiez parmi les 1% les plus riches? Non, je sais pas,
pas du tout.
Et d'ailleurs, je tiens à préciser que c'est depuis 1992 Disneyland de Paris.
Absolument, oui, c'est ça.
Il n'y a pas eu de gros chantiers comme ça. Et d'ailleurs, c'est.
Non, il y a la Reine des Neiges. Qui en est arrivé. Vous y êtes allé d'ailleurs ?
Oui, j'ai été. C'est pas même comparatif, parce que c'était 2 milliards d'euros la Reine des Neiges. Là, c'est 6 milliards.
Oh, mais là,
c'est un énorme complexe.
Là, 2 milliards, c'est juste une partie.
Oui, non, mais voilà, oui. Bah, le Roi Lion, je sais pas si c'est qu'on comptait dans le Roi Lion, dans les 2 milliards, dans le plan fond. Bref. En tout cas, voilà. Mais...
Ça, en tout cas, ça va intéresser nos auditeurs du Radio Courtoisie.
Alors après, je précise quand même une chose, même si la nouvelle me ravit pas plus que ça, mais en tout cas, ça ne m'énerve pas de voir ça. Par contre, je pense que le parc va être magnifique parce que je pense qu'ils vont faire quelque chose de aussi. Dingue.
Parce que c'est
Kidia. Voilà, je pense que ça va être un lieu touristique qui sera extrêmement visité. Mais moi, en tout cas, je suis pas comme un fou, mais en tout cas, ça me dérange pas.
On peut dire une chose, ça va cartonner.
Bien sûr. Kidia qui fait ça, c'est la plus grosse entreprise des parcs d'attraction. Et eux, ils sont complètement dans la démesure à chaque fois.
Il y a un autre parc, en France, je sais plus lequel, qui a déjà fait une attraction sur Naruto, apparemment, et ça fonctionne déjà très bien. Ouais. Alors, Dragon Ball Z.
Moi, ce qui me fait rire quand même quand je vous regarde comme ça, vous avez tous ces étoiles dans les yeux en parlant de
Dragon Ball Z. Non, je suis pas particulièrement de manga.
Personne ne parle du financement saoudien. Moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on vend pas la France en.
À la découpe.
À la découpe.
Mais ça, on n'est
pas tous en même temps.
Nous sommes habitués avec le quinquennat d'Emmanuel Macron de vendre la France à la découpe, que ce soit avec Alstom, Technique, les entreprises. J'ai envie de dire, écoutez, ça fait bien longtemps que.
Vous dites foutu pour foutu.
Non, absolument pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas les éléments en fait de savoir éventuellement s'il y a des outils d'influence derrière. Je ne pense pas que ce soit l'enjeu des Saoudiens sur ce projet-là ou pas uniquement. Je pense que c'est purement un enjeu capitaliste pour le coup.
Armand.
Pour moi, il faut dans chaque décision, qu'elle soit politique ou géopolitique, il faut calculer le bénéfice et le risque. Je pense qu'il y a plus de bénéfices aujourd'hui, on l'a rappelé, en termes d'emploi, en termes d'attractivité, que de risques d'influence étrangère. Et puis, encore une fois, la géopolitique est changeante. On pourrait très bien se fâcher demain avec l'Arabie Saoudite.
On rappelle
qu'Armand... C'est pas pour autant qu'ils vont récupérer le parc d'attraction.
Qu'Armand fait des consultations pour vous, très chers entrepreneurs. Voilà, vous conseille sur vos investissements, sur vos actifs et vos passifs. Alex, vous vouliez réagir?
Non, mais j'allais dire que j'étais totalement d'accord avec ce que vous disiez. Armand, vous avez parlé du fait que le Qatar fait déjà des investissements massifs. Franchement, vous l'avez aussi dit, Julien, Emmanuel Macron a dit qu'il n'y a pas de culture française. Il n'y a rien de surprenant. Prenons le bénéfice qu'il y a à en tirer. Comme vous l'avez dit, la géopolitique est changeante. On est en élection présidentielle dans un peu moins d'un an. Ça va sûrement aussi faire évoluer les relations avec ce pays. Attendons de voir, mais moi, je pense qu'en tout cas, comme le dit Armand, ça va quand même amener une certaine attractivité et le parc sera magnifique. Donc, je pense juste pour les gens de notre génération qui pourront potentiellement amener leurs enfants quand on en aura, car je n'ai pas d'enfants. Je pense qu'il y a vraiment énormément de souvenirs à partager et on va en avoir plein les yeux.
Armand, vous pouvez arrêter de me faire bouger la table, s'il vous plaît.
Ah, c'est moi, excusez-moi.
J'ai cru qu'il y avait un tremblement de terre.
Je sais pas comment le prendre, ça.
Alex, on termine cette tournée de l'info avec une bien triste nouvelle. Vous allez nous en parler.
Alors oui, on pouvait évidemment pas ne pas parler de cet animateur emblématique du PAF. Le journaliste Philippe Bouvard est mort à 96 ans. Il est décédé lundi matin. C'était un véritable monument de la radio et de la télévision française, créateur des grosses têtes sur RTL. Il avait également mis en avant toute une génération d'humoristes avec le Petit Théâtre de Bouvard dans les années 80. Et je précise qu'il avait aussi pris sa retraite en janvier 2025 en mettant un terme à 60 ans de carrière. Alors évidemment, il a reçu plusieurs messages chaleureux de personnalités qui ont souhaité lui rendre hommage. On a eu notamment Laurent Ruquier, Muriel Robin, Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault, Marc-Olivier Fogiel, Pascal Pro, Julien Courbet, Mimi Mathy et j'en passe. Et même si on est tous plutôt jeunes autour de cette table, tout le monde connaît Philippe Bouvard. Il aura marqué plusieurs générations, comme on l'a dit, ses 60 ans de carrière. Alors on voulait aussi, chez Radio Courtoisie, lui rendre un petit hommage aujourd'hui. Et je voulais du coup vous demander en rapide, quand vous entendez Philippe Bouvard, qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit ?
Légende. Légende. Le premier mot qui me vient, c'est légende.
Légende, rien à voir avec Guillaume Plé, on est d'accord. Hein.
C'est... Ah oui, non, non. Légende. 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 C'est un homme qui a une liberté d'expression qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir.
Ok. Voilà. Armand ?
Moi, c'est son rire. Son rire emblématique, puisqu'il avait un rire, effectivement, qui était très communicatif. Ouais. Et je pense que c'est le genre de personnage, si je peux me permettre, audiovisuel, qui fait beaucoup de bien. C'est-à-dire que c'est les gens qu'on regarde à la télévision et on se sent bien en les regardant parce qu'ils ont une énergie extrêmement positive à transmettre. Et c'était les petits moments chaleureux, voilà, de ces émissions qui vont beaucoup nous manquer.
Bah c'est une génération qui peu à peu est en train de partir et qui va vraiment nous manquer, parce qu'en fait, moi quand je regarde des anciennes émissions, effectivement, il y avait une liberté de ton qu'on a malheureusement plus aujourd'hui. Et c'est vrai que ça marque quand même, son décès marque une fin de la fin d'une époque.
Et on pouvait être sérieux tout en rigolant.
Voilà, bah comme chez nous.
Voilà.
Julien.
Armand a dit un rire. Moi, le mot qui me venait, c'était une voix. Puisqu'il est reconnaissable immédiatement, un monument de la radio. Effectivement, une liberté de ton, une intelligence aussi dans l'humour, dans le débat. Comme vous l'avez dit, c'est une époque, une nouvelle page de cette époque-là qui se tourne, comme avec des proches, hein, le génie du mot, c'est notre époque. Et, en tout cas, voilà, pensez à ses proches et à sa famille.
On va passer au débat de la semaine, un classique de la rentrée budgétaire. Faut-il faire payer davantage les retraités les plus aisés pour redresser les comptes publics ?
Le débat.
Le débat.
On vous a entendu, Armand.
Le débat. J'adore
le
la fin.
Le gouvernement cherche 28 milliards d'euros d'économies pour boucler le budget 2027 et la piste des retraités aisés revient sur la table. La CFDT s'est déclarée favorable à une mise à contribution des retraités les plus aisés sans fixer de seuil précis. En bonus, Marie-Lise Léon, CFDT, plaide aussi pour taxer les successions dès le premier euro contre l'abattement actuel de 100 000 euros par enfant. Ce projet d'impôt sur les grandes successions figure déjà dans le programme de Raphaël Glucksmann. Les syndicats de retraités, eux, dénoncent un matraquage fiscal après plusieurs années de sous-indexation des pensions. Est-ce qu'on ne fait pas une nouvelle fois porter l'effort budgétaire sur ceux qui ont cotisé toute leur vie plutôt que de s'attaquer aux vraies niches fiscales, Julien ?
Alors tout d'abord, j'en ai plus qu'assez de cette volonté de diviser les Français. Un coup, c'est les jeunes qui sont trop feignants, qui ne veulent pas travailler. Et puis tout d'un coup, ce sont les aînés qui sont des boomers, qui gagnent beaucoup trop, qui se sont enrichis, ils sont tous riches. Déjà, cette volonté de diviser tout le temps les Français, ça me fatigue, c'est le premier point. Le second point qui me fatigue énormément, c'est cette capacité à toujours vouloir faire la poche des Français. C'est-à-dire que là, on a une dette qui est de 3500 milliards d'euros, des intérêts de la dette de 74 milliards d'euros, ce qui dépasse le budget de l'éducation nationale hors pension. Et la première idée, c'est on va créer un nouvel impôt, on va taxer les successions, on va aller chercher chez les retraités.
Scandaleux.
Clémenceau avait une phrase formidable à propos de la France. Il disait que la France était un pays fertile, on y plantait des fonctionnaires, il y pousse des impôts. Mais c'est comme ça tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a un problème, la solution, c'est un impôt. Alors que l'État commence d'abord par réduire ses dépenses. Il y a pléthore de sujets sur lesquels on peut couper. Évidemment, on peut déjà contrôler l'immigration, on peut couper l'assistanat. Des gens qui, parfois, ceux qui travaillent vont gagner à peine un peu plus que ceux qui ne font rien. Il y a plein de choses à faire en France avant d'aller taxer et d'aller piocher d'abord dans la poche des gens.
Donc là, vous l'aurez compris, il y a deux grosses infos à retenir. C'est déjà le fait de vouloir taxer les retraités qui ont cotisé toute leur vie et qui, pour la plupart, en fait, il y a certains retraités qui ont cotisé, qui se sont privés pour essayer d'avoir une retraite assez sympathique. Donc, ils ont accumulé un petit patrimoine. On veut les taxer. Et en plus, quand ils décèdent et qu'ils laissent un petit quelque chose pour leurs enfants, on veut leur taxer.
Au même titre, sachant que ce que vous dites très justement, Baya Karla, ce qu'on veut taxer, l'héritage qu'on veut taxer, a déjà été taxé à de multiples reprises. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va rajouter une nouvelle taxe sur la taxe, et dès 1 euro, alors comme ça, on prend tout le monde dès le départ.
C'est de la folie.
C'est une folie. On est déjà dans le pays quand même le plus taxé au monde. Dans les prélèvements obligatoires sont les plus hauts et on veut en rajouter encore. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, il y a un sujet qui est très important et qui est sous-traité dans la sphère médiatique, c'est le consentement à l'impôt. Et là, je vais vous dire, je pense que les Français, ils sont au bout. Ils se demandent où va l'argent. On les pressurise, on veut encore de l'argent et on voit qu'il n'y a rien qui fonctionne. Les services publics sont en piteux état, l'école est en piteux état, les hôpitaux sont en piteux état. C'est une catastrophe et on veut encore demander un impôt. Que l'État d'abord se serre la ceinture, il y a beaucoup d'argent à trouver. C'est pas un problème. S'ils veulent, ils m'envoient un message, on va s'en occuper.
Non mais on parle des retraités. Vous avez vu l'état des EHPAD, vous avez vu la manière dont le corps médical traite les personnes âgées? C'est une catastrophe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de retraités qui ont économisé un peu d'argent pour pouvoir vieillir dans de bonnes conditions, espérer avoir une chambre décente dans un EHPAD avec un corps médical. Après, je ne tape pas sur le corps médical, hein, évidemment. Il y a un réel problème de sous-effectif, des salaires très bas, etc. Mais en fait, c'est un système, je pense, qui arrive à sa fin et certaines personnes ne trouvent pas les bonnes solutions, en fait. On tape, comme vous disiez, on tape dans la poche des Français et à mon avis, c'est pas là où il faut aller chercher l'argent et il faut laisser les retraités et les Français tranquilles. Armand.
Non, absolument d'accord avec vous deux. Je pense effectivement que l'argent, aujourd'hui, le manque à gagner de l'État, la dette étatique, n'est plus dans le portefeuille des Français aujourd'hui. Et il faut, et je vais saluer d'ailleurs votre candidat Bruno Retailleau, qui a mis en avant certaines, pour le coup, idées programmatiques, notamment en termes d'économie du budget de l'État, notamment la problématique de son fonctionnement, parce qu'on a un État aujourd'hui qui est obèse. Ça, il faut quand même réussir à le voir en face et comprendre la problématique aujourd'hui des dépenses étatiques qui sont complètement hors normes, qui sont parfois illogiques. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, effectivement, on explique aux Français où va leur argent, c'est-à-dire qu'on paye. On paye à la pompe à essence, on l'a rappelé tout à l'heure avec le détroit d'Hormuz et autres événements qui nous tombent dessus. On paye à la pompe à essence, on paye à la boulangerie, on paye effectivement la taxe foncière, tous les impôts. On paye. Lorsque vous êtes auto-entrepreneur, vous allez payer 26% de votre chiffre d'affaires. Pourquoi? Vous savez pas. Vous savez même pas où va cet argent, en fait. Le problème, il est là, c'est le suivi de l'argent qu'on perd tous les mois. Parce que c'est de l'argent qu'on perd, bien évidemment.
Mais surtout, moi, je ne comprends pas
mais on perd de l'argent, on ne sait pas où il va.
Je ne comprends pas la logique économique derrière. Parce qu'à un moment donné, les Français n'ont plus d'argent, ils ne vont plus consommer. Donc, en fait, le cercle vertueux qu'on nous promet normalement dans l'économie, ce qu'on apprend, c'est la base, en fait. C'est des principes économiques de macroéco qu'on apprend au lycée, quoi.
Si on n'a pas d'argent,
on n'achète pas. Donc l'argent n'est pas reversé, en fait c'est direct, maintenant c'est raquette de l'État, en fait c'est que dans un sens.
C'est malheureusement un réflexe pavlovien de nos gouvernants politiques depuis de nombreuses années, c'est la solution facile. Bien également, sûr. Aller encore essorer les Français. Armand en a parlé, Bruno Retailleau effectivement a plein de propositions à ce sujet, plafonner par exemple toutes les prestations sociales à 70% du SMIC, ne pas renouveler 250 000 fonctionnaires. Tout à l'heure, récemment, il a parlé justement pour la succession, de permettre à chacun des parents de pouvoir léguer pendant 3 ans plus de 150 000 euros ou 550 000 euros maximum à leurs enfants.
C'est en fonction aussi de son patrimoine. Hein.
En fonction du patrimoine.
La suppression des doublons administratifs, il devrait mettre dans son programme.
Exactement, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en fait... On dit souvent, les Français en ont marre de payer. C'est vrai, les Français en ont marre de payer parce qu'effectivement, ils ne voient pas où va l'argent. Mais je crois, et je le crois foncièrement, que devant l'enjeu de la dette, les Français seraient prêts à en faire encore un effort, mais plus maintenant. Ils seraient prêts à faire un effort si on voit que partout, et qu'on est partout, on fait des efforts, qu'effectivement, on a, l'État s'est serré la ceinture, qu'il n'y a plus d'argent gaspillé n'importe comment. Là, peut-être que les Français diraient, d'accord, pour l'effort national, parce qu'il y a une grande ambition à servir, je peux aller un peu plus loin, mais à ce jour, aujourd'hui, les Français ont assez donné.
Eh, bienvenue en France, hein. Quelle honte, on taxe les morts et on taxe les personnes âgées.
Alors, je me permets juste une anecdote, parce que je faisais la blague des comités, des doublons administratifs. C'est réel, c'est Guillaume Casbarian qui avait mis en avant certains comités consultatifs. Il y avait plusieurs comités consultatifs qui étaient des doublons, voire des triplons. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a un comité consultatif du Séquoia. C'est-à-dire qu'on est chargé, il y a des gens aujourd'hui qui sont chargés de voir l'état du séquoia. Ce que fait déjà le ministère de l'écologie, ce que fait déjà deux autres comités, mais il y en a un troisième voilà, qui est apparu, qui ne sert absolument à rien vu que ça fait un triplon, notamment avec le ministère et avec les deux autres comités. C'est des gens qui sont payés, donc c'est des fonctionnaires d'état aujourd'hui qui sont payés, qui ont un budget pour regarder si le séquoia va bien. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est une dépense complètement illogique.
SACNAFO qui avait sorti justement les chutes de rue.
Oui.
C'est une association qui dit chute dans les bars. Pour baisser le volume sonore, ils ont payé 2 millions d'euros par an.
Il y a effectivement les chutes de rue. Les aides au développement et on peut parler également de toutes les associations que l'État finance
fantôme.
Et qui pourtant, non seulement fantômes, mais qui pourtant jouent même contre la France.
Ouais.
On a vu avec ce qui s'est passé à Ceuta, il y a beaucoup d'associations qui, eux, font le jeu des passeurs, etc. Et pourtant, qui sont financés avec l'argent public. Peut-être que si déjà on commençait à regarder de ce côté-là et à couper les financements, on pourrait déjà s'en sortir un petit peu.
Non mais il faut foutre la paix aux vieux, ils ont cotisé toute leur vie, moi quand je vois les prestations sociales, c'est 44 milliards d'euros par an, c'était Éric Zemmour qui avait dit ça en 2021, 44 milliards, je sais pas si on se rend compte de ce gouffre financier qu'on donne à tout le monde, à qui veux-tu en voilà, et les pauvres petits vieux qui ont cotisé toute leur vie, qui méritent leur argent parce qu'ils ont travaillé, et ben on leur taxe jusqu'à leur mort, c'est ce que tu as dit, et moi je trouve ça aberrant, moi je pense que oui, il y a des économies à faire, mais pas chez les vieux, et je pense plutôt dans comme tu disais, l'immigration, où l'immigration coûte très cher. Je vois Emmanuel Macron a mis je sais pas combien de milliards à Marseille pour refaire les cités marseillaises. Où en sont les cités marseillaises aujourd'hui? Non mais c'est une très bonne question.
On met
de l'argent comme ça, ils donnent de l'argent à l'Ukraine, en Afrique, des milliards à tout va, et puis on va aller pomper les vieux qui ont travaillé toute leur vie. Enfin, moi je trouve ça complètement lunaire.
Il y a l'immigration, mais comme a dit Armand, il y a aussi les doublons, les agences de l'État qui servent
à
rien.
Oui, aussi, bien sûr.
Et en fait, comme vous l'avez dit, en fait, c'est une amputation de la vie par les deux bouts.
Mmh.
La jeunesse, qui doit plus hériter ou alors qui doit être taxée énormément pour essayer de démarrer dans la vie, une vie qui coûte beaucoup plus cher qu'avant, et démarrer dans la vie par le fruit du travail de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et ensuite, une amputation de la vie à son terme, avec effectivement l'envie de taxer les personnes âgées qui, elles, ont travaillé toute leur vie pour effectivement avoir une bonne retraite et évidemment laisser quelque chose à leurs enfants.
Non mais d'ailleurs, je voulais juste finir sur un truc, parce que moi il y a un truc qui m'avait vraiment marqué, c'est une dame de 90 ans à peu près, elle avait une dent qui avait pourri, elle a dit moi j'ai une petite retraite et je peux même pas payer ma dent, enfin me refaire une dent, donc elle a été obligée de rester avec sa dent pourrie, et cette dame là elle est morte, justement, je sais pas.
Parce qu'elle a eu une infection.
Parce qu'elle a eu une infection à la dent, enfin, je me dis mais en fait, et nous on continue à donner de l'argent, comme ça, on veut tu en voilà. Alors, enfin, moi,
c'est indigne de la France.
C'est indigne.
Il y a quelque chose qui m'avait étonné. J'avais fait remarquer ça à ma maman. À Porte-Maillot, il y a une dame française avec qui j'avais déjà discuté qui fait la manche. Mmh. Et je me suis toujours dit, c'est fou quand même, parce que aujourd'hui, on offre des logements à beaucoup de personnes qui viennent d'arriver sous des couvertures de réfugiés ou je ne sais quoi. On leur donne des cartes de crédit, on leur donne des aides. Bon, c'est la grande discussion qu'on a sur les réseaux. Je vois que vous répondez à tous les commentaires. Certains ne sont pas d'accord. Apparemment, on ne donne rien aux immigrés.
C'est parce qu'ils ne regardent pas ce qu'il y a, surtout.
Mais moi, je trouve ça étonnant qu'il y ait quand même des... Moi, j'en vois de plus en plus, et surtout des femmes, quoi qu'il y ait des hommes aussi. Mais ça m'étonne beaucoup aussi de voir des femmes françaises, parce que je discute avec elles, hein, c'est pas que par apparence. Et en fait, j'en vois beaucoup à Paris, et de plus en plus, beaucoup plus qu'avant.
Il y a beaucoup en plus de femmes dans la précarité.
Et vous avez fait un documentaire, d'ailleurs, vous êtes resté un mois.
Non, oui, 30 jours exactement.
30 jours
en tant que
SDF. Donc je ne sais pas quel est votre point de vue là-dessus.
Bah, il y a ce documentaire, et puis vous savez, moi j'ai une tradition.
Vous pouvez aller le regarder sur la chaîne de Témoins.
On peut regarder sur la chaîne YouTube de Témoins, et puisque vous me lancez dessus, vous le savez, je dîne régulièrement en fait, avec des personnes qui sont sans abri, que j'invite au restaurant pour échanger, leur permettre parfois d'avoir un petit moment de bonheur. J'aime pas trop parler de ça parce que ça c'est ma vie personnelle. Non, mais ouais, c'est quelque chose que je fais souvent et ça me permet aussi d'échanger avec eux et de voir aussi parfois les problématiques auxquelles ils sont rencontrés. Vous avez totalement raison. Pour moi, Julien l'a dit tout à l'heure et je suis absolument d'accord avec lui, c'est totalement indigne de la France de laisser les siens comme ça dépérir à petit feu. Effectivement, on a des gens qui se retrouvent sans emploi, non pas parce que c'est des feignants, non pas parce que c'est des cassos ou autre, c'est juste parce que c'est les aléas de la vie qui font qu'ils se retrouvent à la rue et on ne les protège absolument pas. J'avais rappelé ce chiffre qui avait fait polémique mais qui est réel, 70% des logements d'urgence sont occupés par des migrants clandestins. Et je répète, migrants clandestins, c'est-à-dire que c'est des migrants illégaux. Donc il y a déjà un problème. C'est-à-dire qu'on préfère aujourd'hui loger quelqu'un qui est en situation d'illégalité plutôt que de loger un concitoyen français. C'est une honte absolue, c'est-à-dire qu'on préfère laisser mourir sa propre population au profit de qui ? Au profit de quelqu'un qui arrive en enfreignant déjà la loi.
Je sais pas quelqu'un si vous qui n'aurait pas à être là.
Quelqu'un qui enfreint la loi déjà en arrivant, qui nous insulte en arrivant déjà.
Vous vous souvenez quand on avait fait Noël ensemble avec
c'est
les sans-abri.
On avait fait Noël au non, c'était pas au Secours Populaire, c'était l'armée du salut.
L'armée du salut, on avait remarqué que. On a remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de Français pour c'est... une fête catholique, chrétienne, on va dire. C'était assez étonnant.
Ouais, la population était assez diversifiée. Ouais.
Et moi, je rajoute juste sur le débat de base. Déjà, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. À la base, c'est même pas une question de est-ce que les retraités doivent contribuer ou pas. Les Français doivent arrêter d'être doivent arrêter de contribuer. Le vrai problème, c'est que voilà, ils donnent et on a l'impression que l'argent fond comme neige au soleil. Parfois, si je peux corriger légèrement ce que vous avez dit. Parfois, on sait où va l'argent, puisque parfois, on apprend qu'on va donner je ne sais combien de milliards à l'Ukraine, ou ceci, ça. Donc, parfois, on sait où va l'argent. Mais moi, vraiment, ce qui me pose problème avec ce débat et ce sujet, c'est que maintenant, on va se concentrer sur le fait de dire que les retraités ne doivent pas contribuer, et on va oublier qu'en fait, les Français doivent arrêter de contribuer. Bien on va sûr. Se concentrer sur les retraités et oublier, en fait, parce qu'on va vouloir bien les sûr. Défendre. On va se dire, c'est nos aînés, ça peut être nos grands-parents, nos parents, peut-être pour certaines personnes qui ont des parents qui sont déjà retraités ou autres. Et en fait, on va se concentrer sur le fait de défendre les retraités pour qu'ils ne contribuent pas, alors qu'on devrait tous arrêter de contribuer. Bien sûr, bien et ça déplace le débat sur un autre
arrêter
débat.
Arrêter de contribuer
qui...
davantage.
Voilà, c'est
oui,
ça.
Oui,
arrêter
on n'est pas
contribuer.
Dans l'insurrection.
Oui, arrêter justement d'ajouter des contributions à ce qu'on a déjà, évidemment.
Alors je voulais vous partager. Je vous laisse une dernière phrase.
Il faut quand même un bac plus 12 pour comprendre où va l'argent, parce que très honnêtement, moi quand je regarde ma feuille d'impôt, avec tous les acronymes et autres, vraiment.
Vous appellerez le centre des impôts là. Vous m'avez arrêté pour dire ça.
Bah oui, voilà. Mais moi je suis très en colère sur ça, je paye 26%.
Ça sera votre coup de gueule. Vous préparez un coup de gueule pour la semaine prochaine?
Je serai pas là la semaine prochaine. Non, très bien.
Alors vous serez là, vous me promettez.
Je vous promets que je vous promets.
Vous promettez aux auditeurs.
Sur le statut d'auto-entrepreneur, je peux vous faire une heure d'émission si vous voulez, vraiment c'est absolument une heure.
Une heure non.
Mais d'accord.
À partir du. On va être le. Attends, le premier c'est bientôt, c'est la semaine prochaine.
On sera le 31 lundi prochain.
En tant que bon entrepreneur, qu'est-ce qui se passe?
Ok, bah très bien, le 31, je serai là.
Alors le 31 avez... ce sera lundi, mais.
Non, le premier.
Le premier?
Du coup, le premier.
Oui.
Non,
bah, le premier c'est la déclaration à l'URSSAF, hein, comme tous les premiers du mois.
Oui, et qu'est-ce qui a changé cette année?
Qu'est-ce qui a changé?
Vous n'êtes voilà. pas au courant?
Pas du tout.
La facturation?
Oui.
Ah oui, ah oui, exact. Oui, c'est vrai, c'est vrai, exact, c'est la facturation en ligne.
C'est fini les magouilles. Hein.
En fait, vous vouliez juste dire ça, en fait. Ouais, que voilà, c'est fini les magouilles d'Armand.
Pour finir sur une note plus légère avant la clôture, une histoire complètement folle venue d'Italie. Franco Malosso, 69 ans, a construit de toutes pièces un faux site antique de 5000 m² près de Vicence, baptisé Anfiteatro Berico. Son nom italien. Pendant plus de 10 ans, il a fait payer jusqu'à 40 € la visite, racontant que Jules César ou Cléopâtre y seraient passés. Le site avait même été recommandé par un guide touristique financé par l'Union Européenne et par la ville de Vicence elle-même. Il vient d'être condamné à 28 mois de prison, 10 ans après que les archéologues ont démasqué la supercherie. Comment expliquer qu'un guide touristique financé par l'Union Européenne et la mairie elle-même ait pu se faire berner 10 ans? Alors moi je vois que ça vous fait beaucoup rire.
Oui, bon, pour moi il y a du génie dans l'escroquerie.
Ah oui, ouais.
Voilà, c'est quand même dramatique parce que c'est un escroc et que voilà, y a un gaspillage quand même financier qui est terrible. Mais il y a du génie dans l'escroquerie. De là à faire participer l'Union Européenne encore une fois qui n'a absolument rien vérifié sûrement et la municipalité en place. Enfin,
ça a duré quand même 10 ans. Donc
ça a duré 10 ans.
Il avait 59 ans et là, à 69 ans, il a été condamné à 28 mois de prison. Alors, je sais pas si c'est ferme.
Mais le problème, c'est qu'il va être taxé du tout.
On ne peut que regretter que ses talents aient été mis à contribution dans l'arnaque. En revanche, j'ai une proposition. Visiblement, il a créé un décor très réaliste. Donc, on peut peut-être les mettre en relation avec Mohamed Ben Salman pour les deux parcs à thème. Et peut-être qu'on aura un autre Puy du Fou façon italien dans le Val d'Oise.
Mais on sait combien il a généré pendant ces 10 ans?
Non,
ça doit être des centaines de milliers d'euros.
Parce que si c'est 40 euros.
euros, 40 euros l'entrée.
C'était
40, quoi, je sais pas,
oui, 40 euros.
Je sais pas, ouais, 40 euros pendant 10 ans, ça dépend.
C'est des centaines de milliers d'euros.
Bah ouais, c'est énorme.
En 10 ans, c'est énorme.
Ah ouais, énorme.
Non, mais c'est fou quand même.
Mais moi, ce que je trouve, il a vendu du rêve aux touristes.
Ouais. Non, mais vous imaginez.
T'imagines la déception quand tu apprends qu'en fait, tout est faux.
Et peut-être 10 ans après. Ça se trouve, il y en a qui sont allés il y a 10 ans et ils découvrent ça aujourd'hui.
C'est quoi votre monument préféré, vous?
Monument préféré. Oh, c'est une belle question.
Ouais.
Bon, moi, je. Il est arménien, mon monument préféré. Mais,
la grande mosquée de Paris.
Non, non, mais j'ai une anecdote par contre là-dessus. J'avais visité il y a 2 ans de ça les pyramides en Égypte. J'étais très heureux de les visiter.
Vous m'en avez ramené des petites.
Et je vous en ai ramené un souvenir, effectivement. Et j'étais tombé, je vous l'avais raconté, sur un guide qui était totalement un escroc, qui me racontait tout et n'importe quoi. Et heureusement, je vérifiais.
Il était italien, non?
Et je vérifiais mes sources toutes les 2 secondes. Il me disait que c'était du calcaire. Enfin, il me disait tout et n'importe quoi sur les pyramides. J'étais obligé de vérifier. Je me suis dit, mais.
Qu'il y avait des antennes au sommet.
Il m'a ruiné mon expérience. Vraiment, je me suis dit, mais en fait, je l'ai cru. Je me suis dit, c'est un guide officiel.
C'était lui le gars en Italie qui avait construit
le. Je le croyais. Et en fait, ça a ruiné mon expérience. Parce qu'après coup, j'ai dû revérifier toutes mes infos pour pas être passé pour un abruti auprès de mes amis égyptiens. Donc voilà.
Julien, votre monument préféré?
Alors, mon monument préféré, c'est une bonne question. Je pense que mon monument préféré en France, ce sont les Invalides. Que je trouve absolument magnifique.
Et une atmosphère aussi.
À chaque fois, j'ai eu la chance d'y travailler en plus. Et effectivement, à chaque fois que je me rends aux Invalides, je suis émerveillé par l'endroit.
Enfin, moi, j'aime beaucoup surtout l'église.
Oui,
ouais.
La cathédrale Saint-Louis des Invalides est absolument magnifique, avec les drapeaux des victoires françaises de Napoléon Ier. Il y en a 4 drapeaux de mémoire, et ensuite d'autres victoires françaises magnifiques.
Moi, ce serait Notre-Dame de Paris. Par rapport à son histoire et aussi par rapport aux films qui ont bercé mon enfance, enfin, le dessin animé et Quasimodo. Enfin, vraiment, moi, le Notre-Dame de Paris, c'est vraiment quand tu me demandes mon lieu préféré, ça reste Notre-Dame de Paris.
Puis je pensais que c'était le Marais, mais.
Non, non le cliché.
Pour la Gay Pride, vous êtes connu pour avoir assisté à la Gay Pride.
Oui, alors je ne serais pas dans le Marais.
Et c'est un
c'était pas dans le Marais.
Non, c'était pas dans le Marais. Mais non, après, le Marais, c'est sympa. C'est un quartier que j'aime beaucoup.
Moi, j'aime beaucoup.
Mais voilà. On te fait un signe.
Oui, on va terminer. Alex,
écoutez, moi je terminerai en disant que la France est un immense monument la chance d'être mon monument préféré.
Magnifique.
Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour On ne va pas se mentir de 15h30 à 17h.
On ne va pas se mentir avec Baya Carla et sa bande tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.